Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leurs jeux. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, Guillaume Rioux. Guillaume, ça va la pêche?
Salut Romaric, ouais, ça va.
Nous sommes également avec Thibaut Rioux.
Salut à tous.
Alors, je vous invite à nouveau pour nous parler de quelque chose que vous avez co-construit, co-produit. Guillaume Rioux et Thibaut Rioux, les Ludi Fraternitas, nous ont fait l'honneur de produire un scénario pour Donjon et Domino qui s'appelle L'Exil
Campagne
des Héritiers.
Même.
Campagne, exactement, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, dans Donjons et Dominos, on appelle le scénario une suite de parties. Et effectivement, c'est carrément une campagne, puisqu'il y a 3 ou 4.
Trois et demi.
3 bis. C'est ça, exactement. Donc voilà, on vous connaît tous les deux pour vos théories sur le jeu de rôle, pour le fait d'avoir fait donc un document, on va dire très complet, sur les stratégies dans le village. Et donc là, aujourd'hui, je vous ai invité pour parler du scénario que vous avez écrit, enfin de la campagne que vous avez écrit pour Donjons et Domino. L'exil des héritiers. Alors, qui veut se lancer, qui veut déjà décrire? Alors, moi, j'y ai joué, je l'ai fait intégralement avec Géraldine, Julien et Flavie, qui ne sont pas là, malheureusement, aujourd'hui, pour en témoigner. Mais donc, moi, je vais vous faire des retours, en fait, de qu'est-ce qui s'est passé au cours
on
de
attend
notre
que ça.
Mais d'abord, j'aurais Guillaume et Thibaut que vous nous présentiez un petit peu la campagne, peut-être, avant de.
Eh ben, c'est une campagne
un
en trois scénarios. L'introduction, c'était dans un univers d'inspiration grecque antique, avec des héritiers donc d'un roi qui se fait putcher. En fait, le frère du roi prend le pouvoir et il jette les héritiers donc dans des prisons.
Ouais.
Et après, la réflexion, ça va être un petit peu l'exploration autour de ça et découvrir un peu quels étaient ces labyrinthes, etc. Et après, donc il y a trois scénarios, il y a une progression narrative avec différents éléments. Et après, ce qu'on avait adjoint à nos scénarios, c'était pas mal de notes de game design pour expliquer comment on avait conçu ça et aussi pour donner éventuellement des pistes pour concevoir, pour inciter d'autres auditeurs de la cellule à créer des scénarios de Donjons et Dominos.
Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les pistes que vous présentez, en fait, dans le scénario de Donjons et Dominos sont corrélées à la théorie de game design que vous défendez et dont on a eu l'occasion de parler déjà dans ces micros, qui est donc le fameux perso qui a fait l'objet d'un scénario. D'un scénario. Là, tu vois, la façon dont je parle des podcasts maintenant, c'est des scénarios. Donc, dans un podcast précédent. Et donc, du coup, j'invite les auditeurs et auditrices à aller écouter un petit peu ce système-là. Et on verra comment, justement, dans la préparation et la conception de Donjons et Dominos, cette méthode s'applique. Ok. Très très bien, donc voilà pour le lore. Alors, Donjons et Dominos, rapidement, on rappelle que c'est un dungeon crawler sur table qui se joue avec des dominos. On a en fait des règles de jeu qui présentent, qui présentent quatre personnages que sont le voleur, le guerrier, le magicien et le prêtre. Chacun a des capacités particulières. Le voleur, lui, loot plus facilement, c'est-à-dire que quand il tue des monstres, il va pouvoir récupérer plus facilement des trésors. Le guerrier peut taper sur des cases adjacentes à sa position, alors que tous les autres ne peuvent taper que là où il se trouve. La magicienne peut utiliser les sortilèges et la prêtresse peut soigner des gens. Donc, chaque personnage a des capacités spéciales et vont donc explorer un labyrinthe. Labyrinthe qui va être matérialisé par des dominos. Chaque case, chaque domino étant composé de deux cases chiffrées. Donc, une case 1, une case 3, une case 4, une case 5, une case 3, 6, etc. Comme sur un D6, en fait, comme sur les faces d'un D6. Et donc, l'idée de donjon et domino principal, c'est de se dire que donc quand on explore en fait les dominos, qu'on va poser en fait les uns après les autres comme un labyrinthe grâce à des cartes qui vont générer en fait le labyrinthe de façon procédurale. Concrètement, quand on arrive au bout d'un domino, qu'on est un personnage, on arrive au bout d'un domino, on tire une carte et sur cette carte, il y a un schéma qui nous représente comment on doit placer les dominos suivants. Et autour des méchants, donc quand tous les joueurs ont joué, tous les personnages ont joué, on lance le dé des méchants qui est un dé 6 et le score du dé indiqué, si vous regardez les dominos et le dé 6, ils ont les mêmes formes. Le 6 sur un dé 6 est représenté de la même manière, le 5 sur un dé 6 est représenté de la même manière que sur les dominos, etc. etc. Et donc quand vous tirez, vous lancez le dé 6, ça vous dit l'endroit où les méchants apparaissent. Et si vous, votre personnage a le malheur de se trouver à un endroit où un méchant est apparu, il prend une blessure. Et en gros, voilà, le jeu fonctionne comme ça. C'est un système qui permet de générer des donjons à l'aide d'un jeu de dominos de façon aléatoire. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que ce qui va faire vraiment le sel de Donjons et Dominos, c'est le scénario, c'est-à-dire comment donc l'exploration, le donjon, lui, il est toujours aléatoire, les personnages se déplacent avec des règles spécifiques et se battent avec des règles spécifiques, ils lootent avec des règles spécifiques, mais, ce qui va changer, ce qui va varier, c'est l'histoire. Quelle est la nature du labyrinthe qu'ils sont en train d'explorer, quelle est la nature des pièces parmi les cartes qui génèrent le donjon de façon aléatoire, il y a des cartes pièces, en fait, la grande salle, la petite salle, l'immense salle. Là, pareil, c'est au narrateur, donc à celui qui écrit le scénario, ici la campagne, donc ici c'est vous deux, Thibaut et Guillaume, qui avez écrit le contenu, en fait, de ces salles.
Ouais.
Eh bien, voilà, l'auteur va écrire, en fait, ce qu'on trouve dans ces salles. Et parfois même, il décrit des énigmes avec des systèmes de résolution, etc., etc. Et donc après, c'est à chacun, c'est c'est un peu un moteur. En fait, Donjons et Dominos, c'est un peu comme un moteur de jeu sur lequel, en fait, chacun, chacune peut greffer sa carte postale, son histoire, en fait. Et donc voilà, ce que vous avez fait, c'est ça, c'est vous avez greffé votre histoire sur... voilà. Mais vous êtes parti, et c'est ça qui va être très intéressant dans ce débrief, c'est que vous êtes parti de l'idée que Donjons et Dominos, en soi, la mécanique en elle-même, apportait déjà des éléments de lore du jeu. Et vous avez cherché à, si j'ose dire, faire l'aventure qui serait prototypique, qui matcherait le plus possible avec le dispositif.
En effet, une des premières préoccupations, Guillaume, c'était quand même la cohérence, et c'était un principe un peu de justification des différents éléments qu'on pouvait trouver dans Donjons et Dominos. Donc on est parti de l'idée même des labyrinthes, en fait, qu'est-ce que ça pouvait constituer, qu'est-ce que ça pouvait représenter, et notamment justifier ce qu'on trouvait dans les labyrinthes, en partant du jeu de base, donc c'est-à-dire des monstres, des trésors, des boss. Et donc, ça nous a incité en fait à réfléchir, à mettre en place vraiment une narration. Alors, il y aura des spoilers dans ce podcast.
Et notamment, un élément essentiel que je n'ai pas précisé là, qui est dans les règles du jeu, c'est le fameux Minotaur.
Ouais.
Qui est donc une espèce de voiture-balai de Donjons et Dominos, c'est-à-dire que si on n'explore pas assez, si on laisse trop de monstres, il y a le Minotaur qui apparaît.
Maintient une pression pour les joueurs.
Ouais. Voilà, c'est ça, exactement.
Et donc en partant de là, on s'est dit comment on peut justifier ces choses-là. Et donc je me suis dit, si on a des labyrinthes, peut-être qu'ils ont eu plusieurs fonctions au fil du temps. Et donc c'était un peu les introduire dans une frise chronologique et de se dire en fonction des différentes fonctions qu'ils ont occupées,
ouais,
justifier ce qu'on y trouve. Donc on s'est dit, pour qu'on y trouve des trésors, qu'il y ait des coffres et des trésors, ils auraient pu servir de salle au trésor, de cache. D'accord. Ça, c'était une première idée. Le fait qu'on puisse trouver des ennemis, je me suis un peu inspiré du Seigneur des Anneaux avec l'idée qu'en creusant trop profond, etc., on avait réveillé d'anciennes choses et notamment l'idée d'une connexion avec les enfers et qu'il y ait des démons qui envahissent les lieux. Mm-hmm. Ce qui expliquait aussi que les trésors soient encore en place et que l'endroit étant devenu inoccupable, à ce moment-là, les trésors étaient restés tels quels. Et on va voir après, on va justifier ensuite pourquoi les coffres n'ont pas été ouverts.
Très bien.
Le fait qu'on trouve des boss, ça c'était un petit peu plus difficile. Alors je me suis dit, pourquoi pas, le fait que puisque ça pouvait plus servir de salle au trésor et que c'était déjà infesté de démons, ça puisse servir de prison à des créatures fantastiques qui auraient été soit immortelles, soit ou qu'on ait peur de représailles, de malédictions, etc. Et donc ces créatures, au lieu d'être exécutées, étaient enfermées à cet endroit-là pour être isolées du monde. Et donc ça servait de prison et ça expliquait aussi une certaine hétérogénéité dans les créatures.
Donc ce que je trouve génial, c'est que, donc moi... je fais un dungeon crawler. C'est-à-dire que l'idée, c'est le dungeon crawler, il y a des espèces de codes, c'est une tradition. Je veux dire, ça va effectivement de jeux comme, je sais pas moi, Swords and Serpents, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dungeon crawler, tiens, j'ai pas révisé. Certains point and click aussi qui font penser à des dungeons. Je ne serais pas capable de les citer là, j'ai pas assez bien travaillé, ou même des donjons et dragons, tout simplement, des HeroQuest, pardon. Voilà, ce genre de choses, ça y est, ça me revient. Bon, tu prends, voilà, il y a toute une tradition comme ça de dungeon crawler, et toi en fait tu prends le truc, tu te dis pas non, c'est pas un dungeon crawler, c'est un labyrinthe. C'est comme si tu avais pris le truc au sérieux.
Ouais, on joue une cohérence narrative, et aussi le fait de se dire bah là le système est un vecteur de narration, en fait le système détermine une narration. Et donc à partir de là on avait donc le Minotaur. Ça c'était plus intéressant parce que c'est un personnage, en fait, c'est une figure qui est ambiguë de base dans le donjon et domino, parce qu'il détruit aussi les ennemis, il détruit tout.
Ouais.
Et donc on se disait, bah, ça veut dire qu'il n'est pas de même nature que les monstres. Alors ça pourrait être un monstre parmi d'autres qui a été enfermé ici, mais on voulait en faire quelque chose de plus, qu'il y ait une intrigue autour de ça. Et bon, il va y avoir des spoilers dans ce podcast, on est d'accord.
Ouais,
il faut peut-être mieux que les gens aient fait la campagne avant, parce que pour comprendre un peu notre logique de game design, bah, on va être amené à révéler des secrets du jeu.
Ok, alors est-ce que tu veux du coup que je commence mon retour qui
et
est
ben,
moins
peut faire,
spoilant
peut-être.
On peut partir
peut-être. De là, ouais. On fait le retour et après les notes de conception.
D'accord, ok, très très bien. Comme ça, on va pouvoir mettre un trigger à un moment donné et dire
ouais.
Voilà. Alors moi, ce que j'ai trouvé remarquable dans ce donjon et domino, c'est effectivement la grande cohérence avec l'univers du donjon d'une manière générale. Et donc du coup, effectivement, ça correspond parfaitement à ton game design. Il faut savoir que quand on a playtesté, donc d'abord je fais un petit disclaimer. Donc quand on a playtesté, j'étais avec des gens qui ne... Il y avait Flavie qui avait fait la campagne principale de Donjons et Domino, mais elle n'en avait pas fait d'autres. Si, elle avait fait peut-être Toulouse, Donjons et Domino aussi. Et il y avait Julien et Géraldine qui jouaient pour la première fois. Donc du coup, ils n'avaient pas cette expérience de Donjons et Domino. On a pris le jeu, j'avais rien lu du tout. J'ai imprimé les cartes. D'ailleurs, les cartes.
Il y a des cartes spécifiques pour cette version-là.
Voilà, effectivement, il faut pas. Quand vous téléchargez le jeu, donc vous scrollez en bas du site du jeu et vous trouvez tous les scénarios additionnels. Vous verrez que. Donc, il y a Cthulhu, Donjons et Domino, Runner et Domino. Et vous verrez que l'exil des héritiers est en deux PDF parce qu'il y a les cartes d'un côté et le jeu de l'autre. Voilà. D'ailleurs, si vous avez téléchargé la première version du jeu, donc celle que j'avais publiée lors du live,
je vais faire une mise à jour.
Tu fais une mise à jour là, d'accord.
Des petites coquilles.
Ouais, il y avait des petites coquilles, tu disais tout à l'heure en préparation de l'émission. Donc très bien. Donc en plus, on peut l'annoncer, il y a une mise à jour du jeu. Donc ça veut dire que si vous l'avez téléchargé avant, que vous n'y avez pas encore joué, n'hésitez pas à aller dès maintenant retélécharger le jeu au cas où certaines aient remplacé sur votre PC l'ancien fichier par le nouveau. Donc on a imprimé le truc et on y a joué. Aucune prélecture. J'ai pas prélu le truc, quoi. Et j'ai fait une première erreur. Je les ai imprimés. Le jeu, en fait, je l'ai imprimé en faisant économie de papier, impression multiple. Donc j'ai fait, si tu veux, j'ai imprimé le jeu en A5, pas en A4. Et en fait, je me suis rendu compte que Donjons et Domino, si on imprime en impression multiple comme ça, ça devient compliqué. Pour les résolutions des énigmes, on ne sait pas où aller.
Parce que j'ai voulu faire un côté un peu processif et garder du suspense. Et donc, j'avais à construire mon texte pour que des fois, on dise de tourner la page, etc. Et donc, qu'on se retrouve dedans comme ça.
Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il a fallu, tu vois, là la version que j'ai devant moi, c'est une version en fait, que j'ai découpée ensuite. J'ai compris en fait, assez rapidement, parce qu'après le donjon 1, on s'est rendu compte que ce n'était pas jouable comme je l'avais imprimé. Donc, assez rapidement, en fait, je l'ai coupé et je l'ai agrafé. Ce qui fait que, du coup, notre donjon 1, avec les prisonniers, pas du tout prototypique de ce qui doit se passer en règle générale sur ta partie. On a zappé
Ouais.
Le donjon n'était pas comment dire. On s'est dit mais pourquoi ça avait l'air trop simple pour nous, parce que justement on n'a pas eu. Il y a un moment donné, ça c'est pas un gros spoil, ça arrive assez rapidement, où on rencontre des prisonniers. En fonction du comportement qu'on a avec eux, le donjon peut changer ou va changer en bien en mal. Enfin je vous en dis pas plus. Mais ça nous on l'a pas joué du coup. Donc on n'a pas compris en fait. On s'est voilà. C'est le seul truc sur lequel notre partie n'était pas prototypique, sinon c'était vraiment pas, à mon avis, exactement ce que tu voulais. Et j'en veux pour preuve le fait que moi, j'ai découvert le contenu de game design autour du scénario après, et en le lisant, j'ai dit, ok, on a bien vécu les choses qui étaient attendu, prévu par le game design du jeu. Donc c'était réussi de ce côté-là. Tout le monde s'est éclaté, franchement. D'ailleurs, à tel point que moi, je pensais qu'on allait faire que un scénario. Et en fait, à chaque fois, les gens, Géraldine et Julien, tu vois, qui connaissent ni Donjons et Dominos, ni les scénarios, me disent non, on continue, on fait
c'est
la suite.
C'est bon signe, ça.
Et ils sont allés jusqu'au bout, tu vois. Donc, voilà. Donc, vraiment très, très cool. Donc, ça s'est super bien passé. J'ai noté qu'ils avaient eu du mal, Julien et Géraldine, à appréhender la manière dont les énigmes devaient être résolues. On s'est posé quelques petites questions du genre, est-ce qu'il faut résoudre cette énigme en étant dans la pièce directement ou est-ce que c'est à l'ouverture de la pièce qu'elle peut être résolue ?
Ouais, j'imagine, ouais.
Une autre question qu'on s'est posée aussi, c'est est-ce qu'on commence avec des objets au départ ou pas ?
Alors non.
Et voilà.
Mais c'est vrai que je devrais le préciser, ouais.
Et ben ça, je l'ai découvert en lisant le, parce que nous, en fait, on s'est dit, on est des prisonniers, etc. Mais on s'est dit, dans les règles de Donjons et Dominos, on commence avec des potions. C'est écrit sur les cartes, donc on a commencé avec des potions.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je devrais le préciser. L'idée, c'était vraiment jouer roleplay. Et en fait, en tant que prisonnier, on te lâche dans le donjon et on te donne pas d'équipement pour t'en sortir, quoi.
Et je l'ai lu dans le, c'est en lisant en fait les notes de conception que j'ai compris qu'il fallait ne pas commencer avec les potions.
Mais t'as raison, je le précise.
Voilà. Alors, c'est même pas une question de ça. Moi,
je vois que c'est écrit dans le scénario niveau 1, par contre.
Bah, tu vois, peut-être que j'ai.
Je le mettrai en gras.
Ouais. Tu vois, ça se trouve, je l'ai lu, et puis en fait, on a joué, et puis à un moment donné, s'est posé la question, et du coup, j'ai pas relu, tu vois.
La fameuse règle d'or, quoi.
Bah, c'est pas ça, mais je me suis dit, mais c'est vrai, on doit. À un moment donné, on a tilté, en fait. À un moment donné, on a tilté. Ah, mais c'est vrai, on doit commencer avec des équipements. Et puis, d'un coup, on s'est mis les équipements, quoi, tu vois. Donc, on n'a peut-être pas suivi l'ordre de lecture de ce point de vue-là. Après, est-ce que ça change quelque chose ? Non. Pour l'ambiance, le fait de commencer effectivement à poil, d'être jeté en pâture au labyrinthe, voilà, ça peut jouer de ce point de vue-là. Ce qu'on a trouvé génial dans le scénario, au-delà de tout, c'est les boss. C'est vraiment les boss. Non, c'est pas grave, c'est sympa les petits bruits de pâte qui se tournent. Ce qu'on a vraiment trouvé excellent et super kiffant, c'est vraiment les boss. Les boss, on a kiffé, mais
cool.
De ouf. Tous les boss, on trouvait qu'ils proposaient des challenges qui étaient vraiment très différents. L'hydre fixe, celui qui s'envole, qui vole par-dessus, enfin plein de choses comme ça. Il y a plein de boss très variés dans ce Donjons et Dominos qui sont vraiment très très sympas. Je vous les spoil pas, je vous dis pas les mécaniques, je vous dis juste que voilà, les boss sont très originaux et très difficiles. Il y a un vrai challenge qui est proposé.
En effet, ça, c'était une volonté, c'était de se dire s'il doit y avoir échec quelque part, je préfère que ce soit épique contre un boss, quoi. Que l'échec, en fait, il survienne. Peut-être que les mécaniques de tour des ennemis, elles sont un peu plus favorables aux joueurs. Mais par contre, les boss, c'était fait pour que ce soit difficile, qu'il y ait une nécessité de coopération pour les vaincre. Ouais. Et qu'il ne puisse pas y avoir un personnage qui y va et qui le prenne tout seul. Et qu'en effet, s'il y a une mort de personnage, qu'elle soit épique.
Alors, le défaut de la coopération, c'est qu'il y a certains boss sur lesquels on était séparés. Il y avait deux personnages qui étaient à l'autre bout du labyrinthe et deux personnages. Et en fait, du coup, il y a un moment donné où je sais qu'il y a un boss où on a galéré. On attendait en fait en lootant à côté du boss que les autres reviennent.
Ouais.
Bon, c'est un détail, mais.
Mais c'est vrai que ça incite plus à rester groupé, ouais.
Voilà. En même temps, c'est logique. Du point de vue de l'histoire, on est censé être des enfants. Il y a le cadet, il y a l'aîné. On est censé quand même suivre un peu le cadet. Et je trouve qu'on l'a joué. Alors, s'il y avait un défaut, ce serait pas sur notre. Ce serait pas, comment dire. Sur la campagne en elle-même, mais plus sur notre manière de l'appréhender. Comme on était avec Julien et Géraldine, que nous, Flavie et moi-même, on est des gros rôlistes, mais que Julien et Géraldine sont plutôt des joueurs de jeux de société, et que Julien n'a jamais fait de jeu de rôle, je crois. Il n'y a que Géraldine qui a fait du jeu de rôle, et encore, c'est moi qui lui ai fait. Tu vois, c'est moi qui. Enfin, non, parce qu'elle connaissait le jeu de rôle avant. Mais c'est avec moi qu'elle a fait le plus de parties de jeu de rôle, on va dire. Donc, tu vois, c'était vraiment. Donc, du coup, on a limité le roleplay, ce qui fait qu'on a joué très jeu de plateau. Pas beaucoup de roleplay, on s'en fout de qui. Tu vois, les noms, par exemple, des personnages, on ne s'est pas choisi de nom pour nos personnages. Alors que pourtant, le jeu, la campagne nous incitait à faire. Si j'avais joué à cette campagne avec des rôlistes pur jus, la sensation aurait sans doute été très différente. Et peut-être qu'effectivement, on serait resté groupé, etc. Donc voilà, donc là, c'est aussi. Moi, je pense que c'est une campagne qui mérite de mettre les potards roleplay un peu plus fort que d'habitude sur des campagnes de Cthulhu, Donjons et Dominos. Tac. Donc les boss, on s'est éclaté. Les énigmes, le fait que notre propre skill et notre propre connaissance de la mythologie en fait soit récompensé. C'était vraiment super sympa, avec une grande cohérence. Vous ajoutez, et là il y a un truc que je trouve un coup de génie dans ce Donjons et Domino là, c'est l'ajout. Donc vous savez que les histoires, si vous connaissez un petit peu Donjons et Domino, vous savez que les histoires se déclenchent lorsqu'on arrive dans la petite salle, la grande salle ou l'immense salle. C'est là qu'il va y avoir de la description, de la narration, et c'est là qu'on va découvrir en fait à quoi correspond ce labyrinthe, quels sont ses enjeux, qui sont ses personnages, quels sont ses ennemis qui nous attaquent, etc. Parfois c'est dit dans le paragraphe concernant les méchants, mais en règle générale c'est quand même les grandes salles, les petites salles et les immenses salles qui vont nous permettre de découvrir ça. Et vous avez fait le choix d'ajouter un autre élément qui apporte de la narration, qui est le carrefour, c'est-à-dire le moment où il n'y a qu'une seule carte, donc dans la façon dont le donjon se génère de façon procédurale, il n'y a qu'une seule carte sur laquelle il y a trois dominos qui partent dans trois directions différentes. Et c'est là que, dans trois directions différentes. Et c'est cette carte-là que vous avez choisi d'appeler le carrefour. Et au carrefour, vous déclenchez là aussi des événements. Ça veut dire que vous avez augmenté le nombre de narrations. Vous avez augmenté la quantité de 25%, finalement. Enfin, non, un peu moins, parce qu'il y a de l'histoire avant et au début du donjon et à la fin du donjon aussi qui peuvent se déclencher. Vous avez augmenté d'au moins un sixième, en fait, la quantité d'histoires racontées.
En effet, on voulait avoir, en fait, des points narratifs, quoi, des points où on pouvait transmettre vraiment de l'histoire et pouvoir aussi impliquer les joueurs. Et c'est ce que tu disais, c'est très chouette, tu vois, que tes joueurs, ils avaient envie de continuer. Et je me dis, bah, c'est en grande partie, je pense, grâce à l'histoire, le fait qu'il y ait une narration qui lie les trois scénarios et que les gens progressent dans la compréhension de là où ils sont, de ce qui s'y passe.
Exactement, et c'est vrai que ça a joué. Et pas que ça, la grande cohérence aussi. Je veux pas spoiler, mais même le fait que le carrefour soit ajouté dans ce donjon va être expliqué par l'histoire elle-même. C'est ça qui est très fort, c'est que non seulement vous avez fait des ajouts en matière de game design vis-à-vis du jeu, mais en plus vous les avez justifiés de façon intradiégétique à travers l'histoire racontée par la fiction, le contenu fictionnel. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment bien vu et intéressant. Il n'y a qu'un seul élément que j'ai trouvé un petit peu décevant de ce point de vue, c'est le Dominotaur. J'ai trouvé que c'était, même si je trouve l'astuce rigolote...
C'est rigolo.
Oui, c'est rigolo, mais ça vient trancher avec tout le reste du jeu qui est vachement sérieux.
Mais en fait, c'était aussi voulu. Mais après, alors, ce sera peut-être... C'est plus ou moins spoiler, mais c'était pour séparer, justement, quand on était dans un univers de Grèce antique, etc. C'était aussi pour un peu le désancrer de la représentation que les gens pouvaient avoir du Minotaure lui-même.
Ah, parce que t'avais peur que les gens se l'imaginent
comme un Minotaure. En fait, que ce soit trop figé dans l'imaginaire, et le fait de créer un petit décalage par ce jeu de mots, en fait, ça permettait, je trouve, de lui prêter d'autres propriétés, et en fait, d'en faire quelque chose un petit peu différent du Minotaure mythologique lui-même.
D'accord, ok, très bien.
Mais après, on peut critiquer, j'avoue, j'ai une petite tendance au jeu de mots.
D'accord.
c'est mon défaut.
Voilà, déjà, on a oublié aussi les points d'aura. On n'a pas trop bien su interagir avec.
En fait, moi, je m'en suis servi. L'idée, c'était de pouvoir condenser sur peu de scénarios quand même une progression des personnages. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire un moteur de points d'expérience intermédiaire, puisque j'ai gardé la logique
de la
base qui était à chaque fois, à chaque fin de scénario, de gagner des points d'expérience. Et je voulais en fait avoir une progression du personnage qui soit un petit peu plus rapide pour le confronter à des boss plus difficiles, pour lui offrir des choix aussi, puisque les points d'expérience permettent d'augmenter soit le mouvement, soit l'attaque, soit les points de vie, et donc d'entraîner une plus grande différenciation des personnages. Et en fait, les points d'aura servaient à ça indirectement, pour avoir des possibilités de monter de niveau, on va dire, complémentaires aux fins de scénario.
Thibaut.
Et alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi cette idée d'avoir un... Parce qu'au début, quand les points d'aura, ils arrivent, on ne sait pas très bien ce que c'est.
Ouais,
et pour
exactement.
Avoir... Parce que quand Guillaume me l'a fait jouer au début, je me suis dit, mais est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Et il y a ce côté un peu, ce petit suspense.
On l'a bien senti.
On ne sait pas très bien. On se dit, est-ce qu'il faut en prendre? Est-ce qu'il faut les donner aux autres? Enfin, voilà. Et ça, c'est plutôt rigolo. Et après, ça s'éclaire. Ça s'éclaire assez tard. Ça s'éclaire de manière sûre au scénario 3. Et sinon,
ouais,
un peu avant.
Ça peut s'éclairer au scénario 2.
S'éclairer un peu avant.
Et après, l'autre idée, c'était aussi d'introduire même ce concept de doute.
Ouais.
C'est-à-dire, parce que l'idée de... Notre idée, hein, quand on crée des choses, c'est aussi d'inciter les autres à créer aussi. Et de ne pas se limiter à nos propres créations. Et là-dessus, c'est de dire... on peut mettre des trucs qui sont indéterminés à un moment, ça pourrait servir de trigger dans des salles, si on a l'aura ou si on n'a pas l'aura, il se passe telle ou telle chose. Et on trouvait ça intéressant d'apporter cette incertitude au niveau des joueurs.
On l'a bien eu, nous.
Et c'est aussi un peu une idée qu'on a, alors là je vais balancer un terme encore un peu pété, mais c'est l'effectologie. On essaie de réfléchir à la manière de comprendre comment produire des effets sur les joueurs. Et là, clairement, ça marche. Tu vois. Mais cette idée de dire, réfléchissons vraiment en termes d'expérience de joueur. Tu vois, et là... Voilà,
quel effet que ça fait de récupérer...
Donc là, tu as un doute. En même temps, tu te dis, bon, c'est quand même un peu stratégique. Donc, tu vois, et c'est un peu ce qu'on cherche à faire.
Ça fait un peu une synesthésie, pour le coup, parce que t'es censé avoir des personnages qui sont quand même un peu paumés dans des grottes sombres.
Alors, c'est quoi la synesthésie ? Vas-y, raconte.
Bah, après, Valentin en parlera sûrement mieux que nous, mais il peut y avoir à plusieurs niveaux, mais il y a aussi une synesthésie.
Il dort, alors non.
Il peut y avoir une synesthésie émotionnelle qui consiste à essayer de faire éprouver des émotions similaires, si ce n'est identiques, entre le joueur et le personnage incarné. Et comme on est censé, censé pas être très rassurant, les labyrinthes, se dire comment on peut créer chez le joueur une émotion où en effet il y a un doute, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on crée une incertitude. Il y a déjà cette idée-là parce que le plateau, en fait, il va être aléatoire. Donc il y a déjà, pour le coup, là, le joueur et le personnage partagent cette incertitude sur l'exploration du lieu. Mais c'était pas trop savoir ce qui allait leur arriver. Et c'était une façon de faire une connexion entre le joueur et le personnage.
Et juste synesthésie, je renvoie à regretter Frédéric Saintès.
Ouais, c'est lui qui a beaucoup théorisé
voilà,
ça. Ouais.
Sur son blog, pour tous ceux que ça intéresse, vous trouverez
sur Limbic System.
La définition de synesthésie. Il y a aussi un bon article qu'il a fait dans un livre qui est plus difficile à trouver, mais le livre de Cadra, édité par Cadra. Et puis,
c'était en 2004. Le colloque était en 2014 et c'est sorti 3 ans après,
si
je crois.
Je dis pas de bêtises. Donc là-dessus, il y a un bon article. Et puis ça rejoint après, mutatis mutandis, ça rejoint un peu les notions de lead. L'idée, c'est de créer un. Voilà, de créer une sorte de. À travers l'émotion ludique, de créer une tension chez le joueur lui-même. Et d'essayer de lui donner à ressentir une partie de ce que son personnage est censé ressentir. Ça, c'est
en l'occurrence, voilà. Les personnages sont censés avoir peur dans le noir et dans ces labyrinthes. Voilà. Et on veut que, donc, en parallèle, si la crainte du noir et du labyrinthe peut être instillée chez le joueur de façon peut-être affaiblie, c'est le fait de récupérer des choses dont il ne sait pas si elles sont... dont il ne connaît pas la nature. Et donc, du coup, le joueur craint de récupérer ses points d'aura et en parallèle, le personnage, lui, craint de devoir explorer ses labyrinthes et ses couloirs. Très, très bien. Alors, les points d'aura, le problème que nous, on a eu, c'est que quand on les a eus, on s'est dit « Ah merde, on a raté quelque chose ». Donc immédiatement on est revenu en arrière, on s'est dit attends où est-ce que c'est expliqué, et donc au lieu de provoquer tout de suite, attendez parce qu'il y a un deuxième effet qui est cool, au lieu de provoquer d'abord cet effet d'inquiétude, ça a provoqué un effet chez les joueurs de merde on a raté quelque chose, ce qui n'est pas inintéressant non plus.
Ouais mais c'est vrai que c'était pas prévu ça.
Mais c'était pas prévu, mais du coup ça a créé de trucs, donc on revient en arrière, ça a mis une pause au jeu, en mode on est tous en train de compulser le début du truc pour se dire tiens qu'est-ce qu'on a raté. Donc voilà, on peut ici imaginer aussi une synesthésie entre les joueurs qui se disent tiens est-ce qu'on a raté quelque chose avant, hein. Bon,
et du coup comment vous avez conclu, vous avez dit ça viendra plus tard.
Non, exactement, c'était qu'on s'est dit non, il n'y a rien. Et là on s'est regardé, on s'est dit alors du coup c'est pas Géraldine et Julien qui ont fait cette réflexion là, c'est pas Flavie non plus, c'est moi. Je leur ai dit je connais en fait les designers de Donjons et Domino. Ça m'est déjà arrivé une fois dans un Donjon et Domino. C'était le Donjon et Domino de Johan qui n'est pas sorti. Mais il y a la même chose dans Cthulhu Donjon et Domino. Il y a un objet à un moment donné que tu portes. Et si tu le portes, les ennemis t'attaquent en priorité. Donc tu as un espèce de... C'est le... Alors pourquoi ? Parce qu'il existe un dungeon crawler très célèbre qui s'appelle Gauntlet. Et dans Gauntlet, il y a ce qu'on appelle le hit, qui est en fait un objet... que quand tu le prends, les ennemis ne voient que toi. Ils t'attaquent que toi. Et les joueurs, dès que tu touches, en fait, si tu joues le guerrier et que tu as le hit, tous les ennemis t'attaquent. Si tu joues l'elfe et que tu touches le guerrier, tu récupères le hit. Donc, il y a un côté, les joueurs se bousculent pour se passer le Misty Gris, si j'ose dire, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui revient dans ce Dungeon Crawler. Et je pense que c'est ça, bon, en tout cas, moi, quand je fais toujours le Dungeon Domino, c'est à ça que je pense. Je pense que Johan doit penser à des mécaniques un peu similaires. Donc, quand on a récupéré les points d'aura, tout de suite après, je leur ai raconté ça. J'aurais dit attention, parce que dans les autres scénarios de Donjons et Domino, y a ça. Et donc, je pense. Et donc, moi, c'est là que je leur dis je pense que c'est quelque chose de négatif. Par défaut, je me suis dit donc, du coup, j'ai fait bon, on va pas tout de suite se les donner. Enfin, en tout cas, je sais pas quoi. Après, il y a quelqu'un qui a fait la réflexion, je crois que c'est Flavie ou je sais pas quoi, qui a dit bah, quand même, c'est vachement positif comme nom, aura. Pour un truc négatif. Et je lui dis oui, mais on est dans le noir. Et donc, si ah,
c'est
celui qui a
que ça déclenche des débats comme ça.
Ça a déclenché une discussion, en fait, mais en mode, du coup, c'est mon histoire, ma culture de jeu des Dungeon Crawler et de Donjons et Domino qui a fait qu'on a pu résoudre ce problème-là. Mm-hmm. Donc, au final, tu vois, comme quoi. Mais, et finalement, du coup, l'effet escompté est arrivé. Mais après. Voilà. ah oui, tiens, il y a un truc que j'ai oublié de dire lors de mon débrief, et on va pouvoir reprendre la conversation après, sur ce que tu disais, l'effectologie, et est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres effets de manche de cet ordre-là dans votre design. Il nous a manqué un truc pour relever les joueurs qui étaient tombés par terre. Dans toutes les campagnes de Donjons et Domino sorties à ce jour, lorsque le personnage d'un joueur est tombé, on a le droit de lancer un D6 et sur un 6, on se relève. Vous êtes passé à côté de ça?
Ah ouais, moi je suis passé à côté de ça dans la base, ouais. Je t'avoue.
Non, c'est pas dans la base, c'est dans les... En fait, la plupart des designers de scénario, de campagne de Cthulhu Donjons et Domino, donc Johan, Jérémy et moi-même, et Julien aussi commence à y réfléchir, on est tous arrivés à la conclusion que quand on tombait par terre, si chaque joueur joue un personnage, c'est chiant pour celui qui est tombé par terre.
Ouais.
Et donc du coup, dans l'idée de rendre ça moins chiant, on s'est dit autour du joueur qui est tombé par terre, il lance un dé 6, s'il fait 6, il se relève. Donc il regagne un point de vie.
Ah, moi j'avais gardé en notion que c'était le prêtre qui pouvait soigner quoi.
Ok, ouais.
Je suis d'accord avec ton ajout, hein. Clairement.
Mais c'est pas mal, parce que ça oblige le prêtre à rester proche des autres personnages.
Non, mais après,
et donc...
moi, ça me va aussi, voilà. Parce qu'en effet, ça permet de limiter le temps hors-jeu des joueurs, tu vois.
Et attends, parce que dans Runner et Domino, Jérémy va encore plus loin. Il dit, si c'est la première fois que tu jettes le dé, c'est sur un 6 que tu relèves. Si c'est la deuxième fois, sur un 5, un 6. Si c'est la troisième fois, sur un 4, 5, 6. C'est-à-dire qu'il force, en fait, au bout d'un certain moment, l'arrêt. Plus ça fait longtemps que tu es debout, et plus tu te relèves facilement.
Okay.
Et ça, à mon avis, c'est une règle vraiment sympathique, et juste gratuite. Alors, je ne sais pas quel effet vous recherchez en termes de design, mais franchement, c'est vraiment sympa de pouvoir se relever.
En fait, nous, on voulait pas toucher non plus à l'essence de tes règles.
Ouais,
mais ça nous va complètement.
La manière dont on l'a un peu émulé, c'est.
On a fait des récupérations automatiques de PV.
Il y a un peu de récup et il y a aussi un objet dont on dit pas exactement ce que c'est, mais qui va en fait qui va se combiner avec les potions et qui va amplifier leur
et on a eu la chance de le choper.
Voilà, normalement c'est...
Tu es obligé de le choper.
Ah, on est obligé de le choper, très bien. D'accord.
Donc là l'idée c'était
parce qu'ils sont pas tous obligatoires, les artefacts, on peut passer à côté de certains.
La plupart si, quand même.
D'accord. Il y en a deux qu'on n'a pas réussi à choper. Je vais vous expliquer pourquoi.
Ouais,
si
on regardera après.
Ouais.
Ouais.
Après,
dans
quand on
va. Spoiler.
Dans la partie spoiler, on en parle. Ok, donc je note ça juste. Reparler des artefacts. Ok. Voilà. Non, mais en fait, on va pouvoir passer à la partie spoiler. On a parlé de tout ce qu'il fallait. Si vous voulez en savoir plus sur Donjons et Domino à ce stade, donc si vous voulez tester ces scénarios, donc sachez que il existe aussi, donc je suis en train de faire une série de vidéos qui s'appelle Jeux de Rome, sur lesquelles je présente mes divers jeux, et donc il y a un jeu de Rome qui est sorti, donc c'est une vidéo YouTube de 6 minutes, dans laquelle je présente très rapidement le concept du jeu Donjons et Domino. Voilà, ça peut être aussi l'occasion pour vous de voir ce que ça donne.
Donc nous on fait un jeu de Rome arrangé, c'est ça ?
Oh, joli.
Mais pas arrangé dans un placard.
Oh, joli. Oh là là, quel enchaînement incroyable. Et donc du coup, ok, c'est ce type de jeu de mots donc qui vous fait dériver dans Donjons et Domino, le Dominator, tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Non, mais je crois que c'est bon.
Les spoilers.
Alors bah vas-y, commence les hostilités sur les spoilers, tu
vois. Ok, et ben pour finir là sur la notion de cohérence qui a vraiment guidé, en fait tout le début de création du jeu, ça venait vraiment de là.
Donc là, quittez le podcast si vous voulez faire la campagne, quittez le podcast tout de suite, on va la spoiler, on va rentrer. Alors oui, non si, il y a un dernier truc que je voudrais vous dire avant que vous ne partiez, chers auditeurs auditrices, avant les spoilers, lisez les notes de conception. Alors d'abord
jouer au scénario, parce que les notes de conception sont des spoilers.
Eh ben non, moi je conseille, alors voilà justement, c'est là où j'en viens. C'est, je pense que c'est important dans cette campagne qu'il y ait un maître de jeu, un animateur. Il peut éventuellement jouer un personnage, mais qui ne prendra pas la résolution des énigmes, etc. Il peut jouer avec les joueurs et tout ça, les aider. Éventuellement l'aîné par exemple, qui pourrait faire ça, c'est un peu dommage, ou le cadet. Mais moi je pense que ça fait partie de ces campagnes de Donjons et Dominos où... il vaut mieux avoir un animateur qui connaît tous les secrets et toutes les résolutions d'énigmes pour pouvoir poser une ambiance. Moi, j'ajouterais de la musique, par exemple.
Oui,
j'ajouterais de l'ambiance. En fait, je pense qu'elle est tellement immersive, entre guillemets, cette campagne. Elle est tellement intéressante du point de vue de l'immersion et du point de vue de l'histoire et de ce que ça raconte et compagnie par rapport au design de Donjons et Dominos que je pense qu'elle mérite mieux que tous les joueurs découvrent en même temps. C'est-à-dire que là, du coup, le gars, il sait que les points d'aura... c'est des trucs positifs, mais il le dit pas, tu vois. Il sait qu'il faut garder le suspense, donc tu fais... Et là, tu récupères deux points d'aura. Et là, c'est quoi les points d'aura? Je ne sais pas. Tu vois, ajouter, en fait... Et si l'animateur a lu les notes de conception, il sait exactement comment maîtriser et animer la partie, et du coup, c'est nettement mieux. Je pense que la façon dont on y a joué, nous, certes, elle est fonctionnelle, il n'y a aucun problème, mais je pense franchement, je te maîtrise ça... ça donne une toute autre ambiance.
C'est vrai que ça peut être une belle manière.
C'est bien mieux. Je pense que ça va être bien mieux. Donc, moi, je conseille, un peu comme Toulouse, Donjons et Domino. Toulouse, Donjons et Domino, c'est chouette à découvrir ensemble, mais je pense que c'est encore mieux si quelqu'un a lu toute l'intrigue et le maîtrise à ses joueurs comme un jeu de rôle classique. C'est-à-dire qu'il va lire, en fait, quand les joueurs arrivent dans la salle, c'est le MJ, entre guillemets, l'animateur, qui va lire le contenu, etc. Et là, avec les notes de conception, ce qui est cool, c'est que le maître de jeu, l'animateur de la partie de Donjons et Dominos, c'est exactement... C'est-à-dire qu'avec vos notes de conception, on ne peut pas se tromper à chaque élément, chaque détail, chaque porte, chaque énigme. On sait exactement comment maîtriser le sens que vous avez voulu lui donner, la charge affective, l'effectologie attribuée à chaque propriété et tout. Et donc, je pense que vraiment, plus que jamais, cette campagne se prête à une animation externe. Et donc, à faire jouer ce jeu à d'autres joueurs.
Ok.
Voilà. Quitte à se sacrifier, c'est pas grave. Ouais. Tu vois, c'est pas grave, en fait, de sacrifier. Il y a un tel plaisir à présenter un scénario, une campagne de Donjons et Dominos, je trouve, en soi, c'est pas grave de sacrifier pour être animateur. Ça fait tellement plaisir de voir les joueurs s'éclater dans le donjon, entre guillemets, que je trouve qu'il y a un plaisir d'animation à Donjons et Dominos. Moi, j'ai trouvé... voilà. Donc, n'hésitez pas pour cette campagne particulièrement à laisser des joueurs en fait explorer trucs et vous à être animateur, animatrice de la partie. Et maintenant, c'est bon, vous pouvez quitter le podcast. C'est parti pour
partie spoiler.
On va démonter le jeu en fait.
Oui,
là.
On ouvre le capot.
Voilà, on ouvre le capot.
Donc au niveau cohérence, pour finir, donc l'idée c'était de justifier ce qu'on trouvait dans les labyrinthes. Donc sur la partie narrative où il y a une divinité grecque qui va se manifester à différents moments, j'avais considéré qu'au début, de manière la plus ancienne, c'était des lieux de culte. Et je m'inspire un peu pour ça des grottes avec les peintures rupestres, etc. Et donc l'idée c'était des lieux de culte avant, donc c'est normal qu'il y ait des temples. Ensuite, ça a servi de salle au trésor.
J'avais envie tout de suite de dire que la divinité grecque, c'est Hermès.
Oui, c'est Hermès.
Ah oui, mais c'est hyper important.
C'est Hermès, on va le voir pourquoi. Ouais.
Voilà, ça justifie l'existence du carrefour.
Ça justifie,
Hermès
on va faire le point maintenant, ouais, c'est ça. Hermès étant la divinité des carrefours, on s'est dit, c'est très cohérent avec cette nouvelle salle, quoi. Et puis c'était intéressant après pour en fait les artefacts que vont gagner les joueurs, donc des objets spécifiques qui vont être non pas obtenus dans la pioche de loot habituelle, mais avec certaines actions, certaines résolutions d'énigmes ou à partir des coffres ou des boss. D'ailleurs, après avoir vaincu des boss, il y avait une récompense immédiate. Ça permettait aussi de faire de la progression de personnage, et on l'a justifié avec en prenant les attributs d'Hermès, qui étaient son chapeau, son caducée, ses chaussures ailées, pardon.
Ouais.
Donc voilà, ça pour le pour les donc les lieux de culte, les coffres et puis ensuite donc les ennemis avec communication avec l'enfer, les boss. Et ensuite, pour les personnages. Donc, on s'est dit, bah, comment finalement ils se retrouvent là-dedans? Il y avait l'idée, en effet, de suivre la trame d'un dungeon crawler classique avec l'idée qu'il y a des butins et donc qu'ils pouvaient y aller spontanément. On trouvait ça un petit peu plus intéressant d'avoir une contrainte plus forte. Et donc, on s'est dit, bah, qu'est-ce qui pourrait lier les personnages? Qu'est-ce qui leur ferait un peu un lien indéfectible puisque c'était un co-op pur? C'est pour ça qu'on a pensé à des liens du sang, en fait, et à avoir une fratrie.
Une fratrie, ouais.
Et donc se dire bah, pourquoi ils finiraient ici, qu'est-ce qui les amènerait là. Donc on s'est dit bah, à ce moment-là, s'il y a une question d'accès au trône, de pouvoir, ça pourrait être des héritiers. Donc les parents qui sont écartés ou voire qui sont exécutés. On a choisi cette option-là en fait pour... notre idée c'était de se dire bah, le père qui était souverain du royaume a été exécuté, il va nous servir en fait de voix off, il va nous servir de média de transmission de l'histoire, et le fait qu'il soit exécuté en fait faciliter sa réincarnation en tant que fantôme, on va dire, qu'il soit dans un espace intermédiaire, puisque il y avait l'idée que c'était pas une mort naturelle, et donc ça rejoignait un peu des
fantômes,
voilà, des croyances,
à la réalité,
c'est ça,
parce que il
s'accroche
un truc
parce
à
qu'il y a eu une injustice, il y a quelque chose à accomplir.
Ouais.
Donc on se disait pourquoi, par contre, si le père a été exécuté, pourquoi les enfants auraient pas été exécutés? Donc on s'est dit, à ce moment-là, on va dire qu'ils ont eu la royauté, en fait, ils sont héritiers par leur père, mais par contre, ils ont une autre nature par leur mère. Et on s'est dit, à ce moment-là, la mère, elle va être descendante de héros, et donc il y a du sang divin. Et le fait qu'ils aient du sang divin dans leurs veines, ça empêchait, en fait, c'était une manière d'empêcher que l'usurpateur, en fait, celui qui avait exécuté le père, exécute aussi les enfants, parce qu'on pourrait penser...
Donc c'est notre oncle. Hein.
C'est ça, qui est l'oncle.
Voilà,
c'est
comme dans le Roi Lion. Hein,
c'est ça, c'est
Scar.
Et donc le frère du souverain qui l'a exécuté pour récupérer le trône, puisque lui, il est aussi, il a aussi prétention au trône. Et donc il écarte les enfants, mais il ne les tue pas, parce que, de par leur nature divine, il a peur des représailles, et notamment d'une malédiction, etc. Donc il ne veut pas, en fait, se salir les mains. Il veut pas non plus que les héritiers restent en vie, donc il les met naturellement dans les souterrains, en fait, pour les écarter du pouvoir.
Alors là, j'ai pensé, moi, immédiatement, le méchant et le commanditaire. Moi, dans ma tête, à chaque fois qu'on arrive près d'un coffre, il y a cette voix dans notre tête qui nous dit c'est quoi déjà la fratrie?
C'est
écrit sur le coffre.
C'est écrit sur le coffre.
Seul l'un de ma lignée,
seul l'un de ma lignée. Ouais.
Sous-entendu, il y a seul quelqu'un de ma lignée qui peut ouvrir le coffre. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit immédiatement, on s'est dit non, mais là, on est en train de se faire mener en bateau. Il veut récupérer les artefacts qui sont à l'intérieur du coffre, et donc il nous a plongé dans le labyrinthe. Pour nous faire ouvrir ces putains de trucs. On s'est posé la question.
Et donc ça, cette ligne-là, elle était à la fois narrative et à la fois, encore une fois, c'était une justification pour dire pourquoi les coffres ne sont pas ouverts. Pourquoi s'il y a des démons, s'il y a des méchants, pourquoi ils n'ouvrent pas les coffres? Et donc c'était l'idée de se dire...
Parce que c'est un dungeon crawler.
Ben, bien sûr. Et donc là, on s'est dit, bah, il faut qu'il y ait un enchantement qui les protège. Et pourquoi les personnages pourraient les ouvrir? À ce moment-là, on crée un lien familial. L'idée aussi, c'était de se dire pourquoi il y aurait eu quelqu'un 1000 ans avant qui fasse des coffres qui ne seraient ouverts que par cette personne-là. Ça ne nous paraissait pas cohérent. Donc on gardait cette idée de lignage et de se dire, bah, il y a un de leurs ancêtres qui avait placé des objets dans ces coffres. Et il ne savait pas quels seraient les descendants qui pourraient les ouvrir, mais par contre il réservait l'héritage à sa descendance. Donc tout ça nous paraissait produire un ensemble très cohérent qui justifiait tout ça et qui pour moi permet une meilleure immersion des joueurs dans l'histoire, parce que c'est cohérent, parce que ils ont une vraie justification d'être là.
Ouais, excellent. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me frappe énormément à la lecture des justifications. C'est que tout est justifié. Tout est justifié. Vous avez vraiment choisi de tout justifier. Le moindre choix que vous avez fait est vraiment justifié et argumenté et cohérent. Enfin, ça, c'est quand même incroyable.
Et après, le reste, c'était surtout... Et oui, alors, on peut quand même... La dernière justification, c'est le Minotaure ou le Dominotaure, hein, comme on voudra l'appeler comme on veut, qui... Moi, ce qui me frappait dans Donjon et Domino, c'est que finalement, il arrive sur un personnage, il le met à 0 PV, mais en fait, il reste réanimable. Et pour quelqu'un qui détruit tout, j'avais un peu cette idée, bah, il met les personnages hors de combat, mais il les élimine pas définitivement. Et donc,
Pourquoi ?
Pareil, c'est la même raisonnement, c'était comment on peut justifier ça en fait ? Et comment il pourrait y avoir un genre de sursaut d'humanité qui fait qu'il ne va pas jusqu'au bout de son acte destructeur ? Et donc ça va être ce sera une des révélations de la campagne. C'est de
alors
dire,
que les méchants, lui, il les élimine définitivement.
Après, il peut y avoir possibilité de réanimation, mais le Dominator élimine les ennemis,
c'est ça.
Il est détruit, et donc je me
disais, les joueurs.
Comment on peut,
pas les PJ.
Comment on peut justifier ça ? Et donc, ça permettait aussi de toujours de s'inscrire dans une forme d'ultra cohérence avec les histoires de lignée et de se dire le Dominator, c'est finalement un ancêtre des personnages. Et après, on va justifier pourquoi il est devenu animal. Mais par contre, ça indique que comme il a une perception de ses propres descendants, c'est pour ça qu'il ne va pas jusqu'au bout de son processus de destruction.
Parce qu'il les aime, il y a un côté de lui qui se retient en fait.
Ouais.
Parce que...
on peut directement continuer sur l'histoire. Et la justification, c'était que... donc leur ancêtre, donc j'aurais donné des noms grecs en fait à la plupart des personnages, et c'est juste des traductions directes du grec en fait. Le Dominator sous sa forme d'ancêtre en fait, sa forme première humaine, je l'ai appelé Katactikis, qui veut dire en fait ancêtre.
Alors ça, pour un dyslexique, merci.
Ouais, j'avoue que c'était pas sympa.
Hein.
C'était un peu rude.
C'est qu'au bout d'un certain moment,
tu l'as appelé K.
Non, Flavie a pris le scénario. C'est-à-dire qu'au début, c'était moi qui le lisais. Et à un moment donné, Flavie a pris le scénario. Elle a dit, bon, tu t'arrêtes.
J'avoue que c'est pas le plus facile à prononcer. Mais je trouvais qu'ancêtre, ça collait bien. Et il y a Egemai qui est la mère. C'était une translittération d'impératrice.
Ça, si vous avez joué à Trip to Sky, en fait, il y a certains mots que j'avais reconnus, moi. Parce que du coup, quand on joue à Trip to Sky, on a l'habitude.
J'aime bien aussi, tu vois, avoir cette forme de transparence finalement. Où ça simplifie en fait, on les nomme sous forme de fonction aussi. Je trouve ça assez chouette. Et donc on va l'appeler l'ancêtre. Ça va être plus simple.
Ouais. Katactiki.
Et donc cet ancêtre en fait donc c'est lui qui a instauré les coffres, etc. Parce que il a mené des campagnes, et donc dans le narratif, c'est qu'il se bat aux côtés d'Hermès. Et donc c'est aussi pour ça qu'Hermès va intervenir et va aider les PJ, va aider les personnages. Et donc il est confronté à un moment, à force d'explorer les salles, il est confronté aux Daimones. Donc le terme n'est pas anodin, parce que c'est à la fois les démons, mais dans la mythologie grecque, ça veut dire le peuple d'or, Daimones. Et je trouvais ça un peu rigolo, alors c'est un peu reconfiguré, mais c'était de faire un clin d'œil pour pourquoi ils avaient du loot en fait. Et c'était un peu faire le lien entre le peuple d'or et les richesses, comme il y a Pluton en fait qui a donné Pluto, c'est la richesse aussi, et de faire un peu ce parallèle entre la richesse et le sous-sol et l'enfer. Bref.
Excellent.
Donc l'ancêtre se retrouve au contact de démons, et notamment de leur prince démon qui s'appelle Ibris. Et qui lui va manipuler les humains. Et donc, en manipulant les humains, il les rend, en fait, il les réduit à néant. En fait, il les empêche de le vaincre. Et donc, l'ancêtre demande à Hermès de pouvoir se transformer. Donc, demande sa métamorphose. Et là, c'est pareil, ça fait écho aux métamorphoses qu'on trouve dans la mythologie grecque. Et c'est pour ça qu'il adopte cette forme de taureau. Et donc, idéalement, en fait, originalement, il prend la forme complète d'un taureau. Et donc pour affronter Ibris, Ibris trouve un artifice pour réussir à créer une illusion et à coincer le taureau dans un goulot d'étranglement. Et c'est au moment où il veut se retransformer, reprendre forme humaine, que le prince démon lui brise un morceau de corne. Et en fait, en lui retirant un élément, il bloque le processus de transformation, et ce qui fait que l'ancêtre reste entre deux formes.
Ouais.
Et ça, c'est intéressant aussi, parce que j'ai voulu mettre ça, cette idée qu'il soit bloqué entre les deux, pour ne pas que lui-même puisse ouvrir les coffres. Mmh. Et c'était pour ça que j'ai mis seul un humain de ma lignée, et pas seul un de ma lignée. Et l'idée de mettre seul un humain de ma lignée faisait que, comme lui, il n'était pas tout à fait homme, il était mi-homme, mi-animal, il ne pouvait pas ouvrir ses propres coffres.
Après, le fait même d'être de la lignée 2 t'interdit théoriquement d'ouvrir tes propres coffres.
C'est vrai qu'on pourrait dire, mais tu vois, s'il y avait l'idée de reconnaissance du sang, ou je sais pas, tu vois, je trouvais ça de rajouter un petit critère de cohérence pour renforcer l'idée que les coffres soient fermés. Et donc ça ferme un peu la boucle narrative, et donc le but après des personnages, ça va être de vaincre les différents boss et de vaincre le prince démon. et de pouvoir briser, de pouvoir un moment briser l'enchantement, et ils vont se retrouver à affronter leur propre le Dominotaur. Donc ça, c'était une réflexion à la fois narrative mais aussi de game design, parce que j'aimais bien l'idée que quelque chose qui soit invincible et qu'on fuit tout le temps, et bien finalement on finisse par faire face à ça. Et il y avait le côté de s'inscrire dans un processus de roman initiatique, un peu où tu finis par affronter ta peur, et ce que tu fuyais au début, tu finis par t'y confronter. Et quand ils finissent par l'affronter, et s'ils réussissent à le vaincre, finalement, c'est, je voulais en faire une scène un peu touchante, où ce soit comme une libération, et finalement, l'ancêtre, il retrouve enfin la paix. Et il brise en plus le sceau magique en fait qui bouche l'ouverture du labyrinthe, ce qui fait que par sa mort en fait les enfants peuvent ressortir et ressortent transformés.
En se libérant, ils libèrent sa lignée.
C'est ça, ils libèrent sa lignée et en fait ils vont pouvoir après donc ça c'est juste suggéré à la fin, mais ils peuvent retrouver leur place en fait dans le palais et ils sont équipés, ils ont grandi, ils sont aguerris et donc ils sont à même de renverser à nouveau leur oncle. Et leur oncle, qui était manipulé par le prince démon, de même qu'il avait manipulé en fait les autres servants, parce que il y avait bien en germe cette idée qu'il y avait manipulation. Et tu disais ah oui, en fait le commanditaire il veut nous jouer un sale tour.
Ouais.
Et c'est vrai, par le biais du prince démon, je voulais que le prince démon en fait fasse pression sur l'oncle pour que l'oncle envoie les descendants dans les labyrinthes, pour que les descendants puissent ouvrir les coffres et apporte en fait tous les artefacts divins au prince démon pour que lui-même soit capable de se libérer en fait.
D'accord, ok, excellent. Vraiment, c'est assez rigolo d'avoir toute l'histoire. Et il faut savoir quand même un truc, hein, Guillaume. Je veux pas te mentir. Julien et Géraldine qui jouaient à Cthulhu Donjon et Domino pour la première fois sont passés complètement à côté de tout ça. Et nous aussi d'ailleurs, tu vois, parce que on était tellement. Au début, je suis passé à côté du truc parce que, je lisais. Et donc j'étais très attentif à ça. Et ouais. Eux, inversement, eux étaient beaucoup plus attentifs à l'histoire et au début de la partie, ils étaient beaucoup plus attentifs. Puis ensuite. Le jeu est passé dans les mains de Flavie et là à ce moment-là c'est Julien, Géraldine et moi-même qui avons été beaucoup plus attentifs, mais Flavie aussi était bien dedans, mais c'est vrai qu'on est passé à côté des détails, si tu veux. On a vu les analogies avec Hermès. En fait, la sensation qu'on a eue, c'est d'être dans un train fantôme ou dans un roller coaster, mais de pas avoir le temps de regarder tous les détails. Tu vois, ça va tellement vite, ça défile trop vite. On se dit, oh là, il doit y avoir une énigme. Oh là, il doit y avoir un truc à creuser. Là, il y a un truc à creuser, mais on verra plus tard. Tu vois,
après, et
on
avance. L'idée, c'était aussi de restituer un peu, tu vois, une ambiance. Et je trouve que, en soi, on peut dire le jeu Donjons et Domino, il suffit à lui-même. C'est agréable de faire une partie de Donjons et Domino, même si t'as pas d'histoire. Mais ça permet de donner. Si tu veux, c'est des couches de profondeur. Après, les gens peuvent s'en emparer ou pas. Ils récupèrent ce qu'ils veulent récupérer. Mais ce qui est quand même plaisant, c'est que comme il y a une certaine cohérence, tu peux même justifier a posteriori, tu vois, et te dire « Ah ouais, en fait, là je découvre ça. » Et en fait, tu vois, tu peux relire les éléments passés.
Alors, un truc qui est très rigolo, c'est que dans tous les scénarios qu'on m'a proposés jusqu'à maintenant, je ne sais pas pour celui de Johan parce que je ne l'ai pas terminé, mais dans Cthulhu Donjon et Domino, par exemple, là, à la fin, on affronte le Minotaure. C'est comme si le jeu... principal suggérait l'idée que ce monstre indestructible, le niveau ultime du jeu, le dernier boss du jeu, ce serait lui.
Ouais,
en fait.
Ouais. Ouais.
Et ça, c'est suggéré par le jeu à tel point que tous les scénarios, ouais, ça finit comme
rigolo,
ça.
C'est rigolo, ouais.
Et là, tu vois, tu te dis, ouais, mais moi j'ai voulu machin. Et en fait, mais tout le monde qui a fait un scénario de Donjons et Domino, tu verras la même chose. Si tu joues à Cthulhu Donjons et Domino, tu verras le dernier boss de fin, c'est le Minotaure.
Et il nous l'a spoilé.
Ouais. Donc, vous verrez. Enfin, c'est. Alors, c'est spoilant, oui et non, parce qu'on le sait dès le départ. Enfin, okay. C'est voilà. Et le Minotaure change de forme parce que le grand ancien dont il s'inspire est un grand ancien qui peut changer de forme.
Ok.
Mais tu vois, pareil, la dimension de la métamorphose, la dimension tout ça, en fait. Et c'est
ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que vraiment, en fait, ton système design porte en lui de la narration, quoi. Enfin, et vecteur de narration.
J'en ai bien l'impression. Ouais. En tout cas, ça tendrait à le prouver.
Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de provocation aussi?
Bah oui.
Provocation pour les ludistes. Parce que là, ouais. En fait, tu dis, en fait, les gars, il y a un truc que vous pouvez pas battre.
Ouais, c'est ça.
Et ça, c'est pas possible.
Et ça, c'est pas possible.
C'est
clair.
C'est pas possible.
C'est exactement
et donc,
ça.
Et donc, finalement, le ludiste qui s'empare du jeu, son but, c'est de montrer qu'en fait,
si.
On peut battre.
Ouais,
on peut
c'est ça.
Et on peut gagner.
Ah, je suis vraiment d'accord avec toi.
C'est
très
Voilà, après au niveau des inspirations, bah, y avait surtout, surtout la mythologie grecque quand même, bah oui. En grande partie. Il y a, y a un personnage de golem, lui, qui est plutôt dans issu du judaïsme.
Mythologie hébreu, ouais.
Et puis, bah oui, c'était vraiment le fond, en tout cas, de l'univers qui est né comme ça.
Et pareil, Hermès... Enfin, est-ce que tu as conscience que dans le Romaric Extended Universe, est-ce que tu connais le concept de Romaric Extended Universe?
Tu m'en as parlé un peu, mais a priori, je suis pas assez fan. Là. Ah, okay. Ça me fait un peu mal, mais.
La plupart des jeux semblent connectés par un grand lore en fait principal. Et donc les joueurs de sens, les reptiliens sans doute, hein, c'est ça que tu as dit en dehors des micros, coquin. Apparemment, tous les jeux en fait sont reliés. Il y a un truc à trouver, il y a un mystère à chercher. Machin, blabla. Bon. Donc, du coup, il y a des gens qui se sont lancés là-dedans et machin. Et donc, du coup, il faut savoir que Hermès, dans le Romaric Extended Universe, il a un rôle très particulier. Parce qu'en fait, donc vous avez joué à Sens ou pas du tout?
Non, pas encore.
Ok, d'accord. Bon, bah, je vous dis rien. Bah, vous verrez. Voilà. Mais en tout cas, et le Val, vous avez joué un peu? Vous avez lu le Val ou pas?
Ouais, Val, mais juste la partie, le tome 1. J'ai pas encore lu les 2 et 3.
Et vous avez lancé Hermès dans la campagne de Donjons et Dominos sans avoir lu autre chose?
Bah, ouais. Tu vois, il doit y avoir un truc en germe très profond.
Bah, vous verrez. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que, tu vois, c'est très rigolo parce que ça appellera un autre podcast sur la place d'Hermès c'est le fait que vous en ayez fait le Minotaure, les gens qui connaissent le Romaric Extended Universe, ils vont halluciner parce qu'il n'y a rien, ça ne pouvait pas être plus match avec le Romaric Extended Universe. Je pensais que vous le connaissiez. Honnêtement, quand j'ai lu le truc, j'ai fait moi la première énigme, j'ai dit aux gens, je n'y participe pas parce que je sais quelle est la réponse. Et ça, vous ne l'aviez pas du tout prévu.
Non. C'était la mythologie pour les nuls qui nous
avaient fait ça. Avec les carrefours et tout, moi j'avais déjà en tête le truc et tout. Donc moi j'étais là en mode je connais déjà le Minotaure.
Rigolo.
Excellent. Donc voilà. Et à mon avis, là, les joueurs de sens et tout ça, ils vont halluciner d'entendre la révélation que vous ne saviez pas. C'est à vous la sacoche qui mène aux enterrements et en référence au podcast sur le perso. Ça vaut ça. Bon, bah, on verra pourquoi. C'est très intéressant.
Ok, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc au niveau des fonctions des uns des autres, donc il y avait le père qui avait une fonction de don d'objets et puis une fonction de transmission d'histoire.
Ouais.
Et puis on avait mis une entité mystérieuse. En fait, on découvre après que c'est la mère qui a un rôle en fait de régénération des personnages.
Ça, vraiment, tous les joueurs l'avaient compris dès le début.
Ouais, il y avait pas forcément de gros mystère avec
ça.
Quoi.
C'est bien. En fait, c'est bien aussi que les joueurs reconnaissent des choses parce que ça permet aussi de se dire ah tiens j'ai compris un truc et tout
ouais,
c'est et ça
c'est valorisant.
Tu vois, ça nous permettait d'avoir un peu soit une résurrection des personnages qui auraient été morts dans le combat contre le boss, soit
justement,
d'avoir
là,
une
tu
petite
vois,
progression quoi.
La mère, moi je l'attendais justement sur le coup du si t'es tombé tu
plus
peux
présente,
lancer le dé6.
Tu l'attendais plus présente, ouais, c'est
bah, justement ça,
ça pourrait,
peut
hein,
être une justification.
On pourrait le remettre ouais. sans souci hein. Ouais. je suis d'accord avec ça.
Voilà.
Et ensuite, donc il y avait cette idée de penser les différents déclencheurs. Donc comme tu disais, toi tu avais tes 3 salles de base et puis les interniveaux. Donc on a rajouté le carrefour, comme tu le décrivais. Et puis on voulait utiliser aussi d'autres petits éléments.
C'est marrant. Pardon, excuse-moi, je t'interromps, mais le carrefour, j'ai le sentiment qu'à partir de ce podcast, plus personne ne fera ça. Je pense que
on a créé un cliché.
Vous avez créé un cliché pour Donjons et Dominos. Je vois pas un gars ou une fille aujourd'hui faire un scénario de Donjons et Dominos et se dire oh le carrefour je m'en fous.
Bah ça c'est perdu une possibilité. Donc,
bah c'est ça, ça donne une
un
possibilité
dommage,
de plus.
Et surtout
quoi.
Comme c'est une carte unique, t'as pas besoin de compter. Et c'est une carte qui est très aisément reconnaissable.
Donc je vois pas. Voilà.
On a pensé donc à d'autres triggers aussi pour introduire de la narration, notamment les artefacts. On voulait qu'il y ait un deck séparé en fait qui permettait à la fois de faire de l'évolution de personnages plus rapide et puis d'introduire des éléments narratifs puisqu'ils étaient liés à Hermès notamment. Et puis il y en a certains qui sont qui sont liés au boss, etc. Donc ça permettait de renforcer un peu ça.
Ah, ce serait cool d'ailleurs de faire une version des cartes où le dos est blanc et pour l'impression.
Ah bah carrément. Ouais.
Okay,
vous avez fait les cartes.
Bah
sont
j'ai gardé
noires.
Ta trame
bah,
ouais.
Tien,
ouais. Ouais.
Mais effectivement.
Mais bah oui, parce que comme moi je le fournis avec, les gens n'ont pas à l'imprimer eux-mêmes.
Pour aider
là,
les gens. Ouais,
ouais, parce que là, l'impression en noir, j'ai peur. Ouais, ça crame de l'encre pour
tout à fait.
Pas grand-chose. Je pense que ça vaudrait le coup d'inverser pour les cartes.
Carrément.
Moi je l'ai fait d'ailleurs. Mes cartes sont.
Et est-ce qu'on voulait en fait dans l'idée de faire des artefacts, notamment il y a des systèmes de gains d'artefacts après avoir vaincu des boss, c'est que ça permettait aussi de faire un peu une mémoire ludique. C'est-à-dire que tu avais ta plume de harpie, par exemple, ou tu as ton sang de l'hydre, et donc tu te souviens en fait que tu as vaincu ça, et donc ça permet de créer une continuité entre les scénarios. Ça, c'était un point.
Ça très cool, en plus, ça fait une récompense, hein, c'est vraiment trop bien.
Bah ouais, c'était aussi.
Ça les rend emblématiques, en fait, les boss.
Peut-être un sujet que tu n'as pas beaucoup abordé, même si on l'a pas poussé dans le jeu, mais c'est le aîné cadet.
Oui, on voulait distinguer un peu les personnages.
Ouais,
ouais.
De différencier les personnages. On l'a pas. Enfin, ça joue un rôle, ça joue pas un rôle clé, mais l'idée, c'est de dire. Il y a cette idée d'avoir une responsabilité supplémentaire. Tu vois, c'est-à-dire au début, bah, t'es obligé de dire, et tu sais pas si ça va être bon, mauvais, ce qui va se passer, peut-être, tu vois, et se dire, bon, bah, ok, moi je serai l'aîné, et donc ça a aussi un peu de roleplay. Ouais. Tu vois, pour sortir de la stricte répartition fonctionnelle du prêtre, etc.
Et c'est vrai, tu vois, on l'a pas poussé en termes de. On l'a pas mis dans les règles, mais ce qui est intéressant, c'est que nous, les expériences qu'on a eues quand on l'a fait playtester, c'est que ça crée quand même du roleplay. Ah, et que les gens disent, bah oui, en tant qu'aîné, en fait, je vais faire certaines choses que j'aurais pas fait sinon.
Alors nous, ça en a créé, parce qu'il se trouve que. Donc moi, j'ai jamais de chance au dé, je suis nul, d'accord, je suis vraiment le pire joueur de Jean Donjon et Domino, je meurs tout le temps, enfin bref, etc. Alors que pourtant j'optimise, tu l'as, mais si, mais stratégiquement machin, mais en fait j'ai tellement pas de chance que 1, je loot jamais, et que 2, je meurs tout le temps.
Faut jouer avec des dévins, ça marche mieux.
Et je jouais le cadet, et mon grand frère qui était Julien, qui jouait le guerrier, voilà, et donc du coup il y a une espèce de relation Phoenix-Shun, vous savez, comme dans les Chevaliers Zodiac, en mode, ah, oh, tu me fais honte Shun, t'es toujours par terre et tout, faut toujours que je vienne t'aider. Et donc en final on l'a joué, tu vois ce que je veux dire.
Ça c'est cool,
à chaque fois Julien me disait, mais t'es encore nul, t'es encore tombé par terre et tout machin, et donc c'était vraiment excellent, alors que c'était moi le prêtre en plus qui était censé aider les gens, donc je tombais tout le temps. Et au final on l'a joué, alors que pourtant par contre même si on l'a joué comme ça de façon un petit peu triviale, ça n'a pas mené à des grandes scènes de roleplay.
Non, bien sûr, mais, ça c'est pas l'ambition.
Voilà. Mais peut-être que
mais,
ça pourrait.
Mais on voulait que ça fasse un petit différentiel, tu vois, sans que ça fasse une franche asymétrie
peut-être
entre les personnages.
Peut-être en termes de réflexion, par rapport à la campagne initiale, tu sais, que tu proposes, l'idée c'est de créer, c'est très bien, hein, un lien avec des PNJ. Parce que tu es la sœur d'eux, etc.
Ouais.
Mais là, l'idée, c'était un tout petit peu différente, c'était de se dire il faudrait créer davantage de liens différenciés entre les PJ eux-mêmes.
Ouais,
parce que c'est plus facile de créer du roleplay entre nous autour de la table
que
là, ou alors il faut que tu aies un MJ qui prépare un peu et qui puisse créer du lien. Mais là, c'est comme ça permet quand même d'aller plus vite à des situations sympas entre les joueurs, tu vois.
Bah là, en l'occurrence, ça a donné.
Et dans les triggers narratifs, après, il y avait cette idée justement qu'on tombe sur des prisonniers, donc ils sont au premier niveau, et toujours dans l'idée qu'il y a, bah, il y a des... en fait, que ça sert encore de prison et qu'il y a des gens qui sont jetés dedans. Et d'avoir un système de compteur, en fait, où si les gens libèrent des prisonniers, en fait, il se passe un truc une fois qu'ils ont libéré tout le monde.
Ça, nous, on est passé. Quel dommage, on est passé complètement à côté, quoi. Je sais pas comment on a fait pour passer à côté de ça. Et après, c'est après, en relisant le scénario, j'ai fait. Et j'étais là en mode, mais putain, mais qu'on est trop con. Alors que. Parce que nous, en fait, les méchants, on les a fait taper. Non, attends, ce qu'ils tapaient ? Non, juste, ils apparaissaient. Et...
C'est ça, en fait, on voulait créer. En fait, là, c'est on voulait quand impliquer les joueurs. En fait, on décrit dans la pièce qu'il y a. On matérialise quatre marqueurs, en fait, au coin de la pièce. On dit qu'il y a des piliers où sont accrochées des personnes qui se démènent. Et la question, c'est comment vous réagissez ? Et en fait, on avait.
Flavie a voulu les soigner.
Ouais.
Et on ne savait pas quoi faire après.
Mais en fait, tu vois,
t'as
c'était.
Vas-y, on a checké, mais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Alors,
parce que
sur
le paragraphe, il y a écrit.
C'est quoi ?
Attends, ça doit être ici.
Non, mais je pense que si ça se trouve, j'ai pas réussi à le trouver. Parce qu'à ce moment-là, on était encore sur la mise en page de merde.
Ah.
Vas-y.
Attends, je te trouve. Énigme. Résolution énigme du niveau 1. Donc, en fait, il y avait un truc. Quelle que soit l'attitude des joueurs, les hurlements des prisonniers ont alerté les Daimoness. Et donc, ça, c'était une manière de faire une façon d'augmenter la difficulté du jeu.
Ouais, d'accord.
Et par contre, donc là, ça permettait en fait de. On relance le DM, et en fait, ça fait que les méchants se mettent à taper. Alors qu'au début, ils sont statiques, ils font que apparaître, et ensuite, ils se mettent à taper.
Mais attends, on était à terre déjà. On a eu tellement pas de bol sur les premiers trucs qu'on était déjà à terre.
Et après, donc l'idée, c'était que selon l'attitude des joueurs, ils allaient devenir soit des ennemis, soit des gens à libérer. En fait, là, ce qui est écrit, je vous le lis, ensuite, si les joueurs ont proposé d'abandonner les malheureux à leur triste sort, voire de leur faire du mal, poser un pion ennemi à chaque coin de la salle. C'est-à-dire que en fait, les marqueurs piliers, bah, en fait, si on est hostile contre eux, ils vont se manifester de manière hostile.
Ouais, okay.
Et
sinon, il se passe rien.
Mais si les joueurs proposent de les libérer, posez 4 marqueurs distincts des ennemis à chaque coin de la salle. Ils représentent les esclaves. Pour libérer un esclave, il faut qu'un joueur dépense un point d'attaque pour briser la chaîne. Retirez le pion esclave, il s'est enfui. Lorsque les prisonniers sont tous libres ou que le niveau est achevé, lisez l'encadré suivant.
Donc on peut les sauver.
On peut les sauver, ouais.
Et il faut les guider à la sortie sans qu'ils
s'enfuient. Dès qu'ils sont libérés, en fait, ils s'enfuient.
D'accord.
Et Yami, si les 4 prisonniers sont libres, le dernier prisonnier offre un trésor à son libérateur. Le personnage ayant libéré le dernier prisonnier pioche un trésor. Et on gagne un point d'aura par prisonnier libéré à répartir entre les joueurs. Et donc là, déjà, on a un indice comme quoi l'aura est plutôt positif.
On ne sait pas
encore à quoi ça sert, mais on sent que c'est positif. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, d'avoir cette idée que... Tu vois, l'idée de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que si t'as une attitude hostile envers quelqu'un, il va être hostile. Et si t'as une attitude bénéfique, il va être quelqu'un, un partenaire, quoi.
Nous, on a vraiment essayé d'être gentils, mais on n'a pas compris les mécaniques. Enfin, je pense qu'on n'a pas trouvé
ce paragraphe,
on l'a juste pas trouvé.
Il y a peut-être effectivement.
Il y a un problème d'impression.
Pour bien renvoyer au paragraphe.
C'est moi qui avais mal imprimé le jeu. En fait, je l'avais imprimé, c'est ce que je te dis, j'avais imprimé en économie de papier.
Mais ça, ouais, c'était un truc qui nous plaisait bien, tu vois, l'idée que ça change vraiment. Et que là, le choix des joueurs est un vrai impact.
L'idée de la libération des. Donc, du coup, tu passes du temps à taper des gentils
et
taper des méchants pour les libérer. C'est génial, c'était une super bonne idée. C'est con, tu vois, je regrette d'être passé à côté de ça.
Ensuite, un des autres trucs qui nous a guidés, c'était le level design. Moi, je voulais faire une campagne relativement courte pour qu'elle soit jouée, en fait, pour pas faire un truc trop long.
Et c'est réussi de ce côté-là, puisque encore une fois, on l'a joué.
Très bien. Entier. Et donc, ce que je voulais, c'était à la fois avoir des boss qui représentent un vrai challenge. Et donc, pour ça, il fallait qu'il y ait quand même une évolution des personnages qui soit assez rapide. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'assez rapidement, en fait, les personnages, ils gagnent 3 points de capacité. Donc, ils peuvent augmenter, ils peuvent répartir ensuite leurs points pour progresser. Les objets sont très forts, les artefacts sont très puissants.
Ouais.
Et donc, ça permet qu'ils montent, en fait.
Le vol, ça nous a super servi. Hein. L'artefact du vol,
ouais,
là,
les chaussures d'Hermès, ça permet d'esquiver les ennemis.
Si on
n'avait
pas eu ça, il y a des tas de fois où on serait crevés.
Et en plus, tu vois, ça te redonne de la gentilité. C'est vraiment, en fait, moi, ce que j'ai fait quand j'ai voulu créer les artefacts, j'ai listé, en fait, mais ça, on le met à la fin. On peut l'aborder directement si vous voulez. En fait, j'ai listé les éléments sur lesquels, un peu listé les variables, tu vois, sur lesquelles on peut agir, et je me suis dit, il y a le mouvement, donc comment on pourrait, les paramètres sur lesquels agir, pour reprendre la méthode perso. Et donc, il y avait cette idée de mouvement, et tu avais déjà des bots qui donnaient un bonus de mouvement. Donc, je me suis dit, comment on passe d'un bonus quantitatif à un bonus qualitatif ? Comment on pourrait faire en sorte qu'on n'augmente pas ?
Non pas un plus grand mouvement, mais
un mouvement différent. Ouais, donc, on s'est dit, s'il y a un mouvement qui permet de voler, ça collait bien avec les chaussures d'Hermès, tu vois. En fait, c'était toujours garder une cohérence narrative.
Ouais, très bien.
On s'est dit, à ce moment-là, si on pouvait survoler les ennemis sans les frapper et sans prendre de blessures, qu'est-ce que ça donnerait ? Donc, ça va changer les méthodes de jeu, etc. Il y avait l'attaque, donc comment on peut augmenter l'attaque, tu vois, comment on peut gagner des attaques
raconte, c'était quoi déjà la solution que tu avais trouvée ?
Alors ça, il y avait un moment où, en fait, il y a une bibliothèque, on peut choisir différents parchemins, et selon ce qu'on choisit, on a des bonus différents, il y a bouts narratifs différents et des bonus différents.
Donc là, tu vois, les artefacts, on peut pas tous les récupérer.
Alors c'était pas un artefact, c'était juste un bonus, en fait, donc qui était annexe des artefacts, mais aussi un moteur de progression. D'accord. Les personnages, et donc on pouvait gagner soit un point d'aura, soit une attaque, donc là c'était très fort, tu vois. Soit il y avait une. Je crois que c'était un parchemin de soins, il me semble, on retrouvera.
Ok.
Je crois
qu'on avait choisi le parchemin de soins parce qu'on était HS.
Tu sais pas à l'avance, t'as juste des têtes d'animaux. Dans la bibliothèque, en fait, il y avait des cabochons avec des têtes d'animaux. Et ça va te donner
ça t'indice quand même.
On avait compris qu'il y avait le serpent,
donc un peu la figure du caducé.
En fait, on avait identifié que ça correspondait aux caractéristiques, je sais plus quoi.
Mais par contre, les bribes d'histoire que ça te donne, les éléments que ça te donne, sont différents.
Ouais, d'accord.
Il y avait ensuite comment agir sur les points de vie. Donc là, on a choisi en fait le caducé d'Hermès, où ça te permettait de transférer de la vie au contact, tu vois, tu donnes des points de vie à l'autre. Donc c'était une autre manière d'influencer les PV.
Et faire de la collab,
ouais, carrément. Ensuite, on a vu qu'il y avait des jets de dés, donc soit les jets de loot, soit les lancers du dé des méchants. Donc on a fait un système de relance et un système pour augmenter le loot. Et le système pour augmenter le loot, on le donne très très tôt. Ouais. Pour que, en fait, les joueurs, c'est pareil, même s'ils progressent pas, même si leur progression c'est en fin de niveau, etc., bah, qu'ils puissent avoir des objets qui leur permettent d'affronter les créatures.
Dans notre partie, on a pas eu de chance. Hein. Vraiment, il y a des fois où, par exemple, il y avait pas de chance, deux personnages qui se retrouvaient sur case 5 et on faisait 5, quoi. On a vraiment pas eu de chance. On sait qu'on en a chié, mais des trucs de fou. Moi, j'ai passé ma vie mort.
Mais vous avez réussi
ou pas ? J'ai passé ma vie mort.
Vous avez toujours réussi.
On a réussi le boss, on l'a réussi complètement à l'arrache.
Mais c'est
les meilleurs.
À 30 secondes, enfin, tu vois, c'était lui ou nous, quoi. À la fin, c'était en mode duel.
Moi, c'est vraiment ce que je voulais. Moi, j'avais un peu designé. Alors après, la pondération, tu vois, j'ai pas fait des milliers de playtests, mais moi, ce que je voulais, c'était qu'il y ait deux personnages au tapis à la fin de chaque boss. C'est-à-dire que tu vois.
Je crois que c'était à chaque fois le cas.
Qu'il y ait de l'épique. Bah, ouais. C'est bien. Ça veut dire que c'est bien équilibré. Tu
et
vois.
Le dernier boss, on l'a vaincu. Il y avait trois personnages au tapis.
Et bah nickel. Et moi, c'est ce que je voulais, tu vois. C'est que le truc, ce soit vraiment. C'était à lui juste, taper quoi. Avant nous.
Il y a une règle où on a fait un peu à la louche. C'est la règle de le boss attaque le premier. On l'a pas toujours joué.
Ok.
Non. Il y a des moments où on est. Où je sais que moi, en tant qu'animateur de la partie. J'ai oublié sciemment de le faire jouer parce qu'on était trop dans la merde. J'ai dit, ah non, ça nous obligerait à tout recommencer. Ouais. Pour une fois, on va finir le tour et le boss attaquera après. Tu vois, j'ai un peu adapté parce que je me suis dit, s'il attaque en premier, on va juste se faire massacrer les uns après les autres. Alors que si on a le temps de l'attaquer une fois, ça donnera lieu à une situation plus intéressante. Il y a des moments où j'ai oublié volontairement mais cette règle de le boss attaque en premier. Mais il faut dire qu'on a eu tellement pas de chance. Non, mais les gars. Enfin, je sais pas si ça vient de l'équilibrage de votre scénario, j'en sais rien, mais on a eu vraiment
après,
pas de chance.
Après, moi je te dis, c'était fait pour que ce soit.
Puis les loot zéro.
Pour qu'il y ait vraiment pour qu'il y ait de l'épique, tu vois. Donc sur le mouvement, il y avait ça, il y avait le vol, il y avait aussi accorder le vol à un allié, donc ça, toujours pour renforcer un peu la coopération. Au niveau des PV, il y avait l'écaille d'invincibilité, donc ce que tu peux, en gros, tu t'es immunisé à un tour, tu vois, donc ça te permet d'absorber une attaque du Dominator ou des dégâts. Il y avait.
Il y a des artefacts qu'on n'a pas chopés, quoi.
Il y en a, normalement.
Est-ce que vous ouvrez systématiquement les coffres ? Parce que tu vois, normal.
Ouais, il y en a un dans chaque coffre.
En fait, il y en a un dans chaque coffre.
Alors, ça, les coffres, on les a tous ouverts.
Ah, bah alors, ok.
Donc, normalement, t'en as trois.
Non, il y a un moment donné où il y avait une salle.
T'en as trois avec les boss, et il y en a un que tu peux ne pas choper. Qui est en fait un. Qui te permet. C'est le chapeau d'Hermès, il me semble. Qui te permet d'avoir une relance en fait. De n'importe quel dé, tu peux le relancer. Donc notamment
ça, on l'a pas eu.
Un dé des méchants ou ce genre de truc. C'est pas clé. Non, en fait, nous, ce qu'on a voulu, c'est avoir des trucs non bloquants non plus, tu vois. Et les trucs, c'était juste en bonus. Chercher mes cartes. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ensuite ? Donc, ça, ouais, sur tout ce qui était évolution de personnage, les points d'aura, c'est pareil, comme on peut les convertir à un moment en points d'expérience, c'était aussi des moteurs de progression de personnage. Ensuite, donc, on a quelques pistes.
On a eu, les chaussures d'Hermès. On a eu la bourse de fortune. L'écaille d'invisibilité, on l'a comment ?
En détruisant le golem. Le golem qui est un boss intermédiaire.
On l'a battu pourtant le golem.
Et qu'elle a.
Et je crois qu'on a oublié de la looter.
Ouais, alors si vous avez oublié, c'est vrai que ça complique aussi le jeu.
Ouais. Bah ouais, mais tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais c'est, il y a toujours ça dans les scénarios de Toulouse Donjons et Dominos. Attends. Même moi, tu vois, mon propre scénario de Cthulhu, Donjons et Domino, je le fais jouer en convention. J'oublie dans une pièce de donner l'antidote au joueur. Donc il se retrouve empoisonné avec les. Ah bah vous l'avez pas fait, je suis con, d'accord. Alors, en gros, j'ai oublié une règle, enfin un truc qui fait qu'ils ont été pourris pendant toute la partie et ils ont réussi quand même à s'en sortir. Donc comme quoi. La corne brisée, ça c'est sûr.
Ouais, ça te permet, en fait c'est plus un, ça c'est plus narratif, ça
pour débloquer le,
ouais c'est ça, voilà. Ça te permet d'affronter le Minotaure et ça fait un côté,
tu vois, je disais que je les avais mis en blanc mais en fait non, les cartes je les ai laissées en noir. Caducée d'Hermès, le porteur peut soigner les blessures d'un héros adjacent, ça je crois qu'on s'en est jamais servi parce qu'on était tellement mal, ouais. Que personne,
mais ça tu vois, ça permet de faire un combo aussi avec le sang de l'hydre et les potions, et donc c'était une manière aussi de faire des chaînes d'APV, ce genre de choses.
Ah mais oui, c'est tellement malin. On peut se les donner, les artefacts, entre nous.
Ouais. Comme des trésors, en fait.
Ça, j'ai été. Ouais, pas, je crois qu'on. Pas... Je crois qu'on l'a pas joué comme ça.
Peut-être que je le précise, de... ça. En fait, l'idée des artefacts, c'est qu'on pouvait pas les perdre si on mourait.
Ah, voilà, c'est ça.
Comme ça, ça permet de garder en fait des personnages assez forts.
Pas les perdre si on meurt, ouais, ça, ok, ouais.
Mais par contre, on peut se les passer comme des trésors. Et donc, on a aussi 2-3 autres pistes, mais qu'on n'a pas forcément. Enfin, c'est plus des pistes ouvertes pour des futurs créateurs. C'était de développer les synergies entre les personnages. Tu vois, avoir par exemple donner des bonus de mouvement à un personnage adjacent ou ce genre de choses. Tu vois, donner des avantages à ceux qui commencent à notre contact.
Pour comboter, quoi.
Exactement.
Faire des combos, des enchaînements, qu'il y ait du beau gameplay, quoi. Qu'à un moment donné, on puisse dire, il y a du beau jeu là. Il y a du beau jeu.
Et puis, on pensait aussi faire des interactions chiffres-personnages, tu vois, avoir des personnages dont les capacités se déclenchent quand ils commencent sur un certain chiffre, tu vois, et utiliser différemment les cases des dominos. Et puis, avoir des interactions éventuellement salle-personnage, toujours dans la même idée de déclencher des pouvoirs ou autre. Mmh. Voilà un peu les grandes lignes. Au niveau du level design, bah, on voulait avoir aussi maintenir la pression. Donc ça, une petite variante qu'on a fait, c'était que quand le boss apparaissait, les ennemis continuaient à popper. Et donc pour ça, on se sert en fait dans les ennemis les plus loin, on supprime les marqueurs les plus loin des personnages, à plus de 3 cases, plus des personnages ou du boss, pour ouais. les faire réapparaître et en fait mettre une pression, notamment parce que l'hydre, il est immobile. Et donc en fait, le risque, c'est que s'il n'y a pas du tout d'ennemis, bah, il n'y a pas de pression, quoi. Les gens peuvent looter tranquille et puis aller se faire l'hydre tranquillement. Alors que s'il y a des ennemis qui continuent, ça incite quand même à aller vers l'avant.
C'est une règle sympa, ça.
Et on avait aussi donc, pour les variations de difficulté au cours d'un niveau avec bah, la découverte de la salle des prisonniers qui active en fait, les démons qui se mettent à frapper sur les cases adjacentes.
Ouais.
Avoir aussi un peu cette variation de difficulté avec le niveau 3. En gros, si on perd le niveau 3, on recommence avec un niveau 3 bis.
Ouais.
Où il y a quelques petites variantes pour pas en fait se retaper les mêmes histoires déjà, parce que sinon c'est pas très intéressant.
Ouais.
Avoir des variantes dans les histoires, avoir des petits avantages. Et notamment un truc qu'on avait introduit, c'est que comme on recommence le même niveau, c'était d'accorder un don de préscience à l'aîné. Et en fait, traduire le fait que les joueurs aient déjà vécu le niveau au niveau des personnages, avec notamment
l'aîné. Donc les cartes de domino ne doivent pas être mélangées quand on fait le 3 bis. On ne l'a pas fait, nous. Donc,
non,
En fait, si on fait le 3 bis, bah, on fait comme ton principe de sauvegarde. En fait, tu recommences le niveau dans le même état que tu l'avais commencé. C'est-à-dire, si tu recommences le niveau en fait, là où tu étais avant. Tu vois, comme tu étais
à la fin du niveau 2, ouais,
voilà.
Okay, ouais.
Tu recommences dans le même état. Mais en fait, l'aîné, il a un pouvoir spécial qui est le don de préscience pour, en fait, pareil, faire un peu une synesthésie, tu vois, entre les joueurs et les personnages. Ce qui est que quand il révèle des salles et qu'il y a plusieurs dominos, il peut changer un des dominos.
Ah,
enfin,
d'accord.
Il peut
voilà,
en fait changer.
Ça,
si le domino lui convient pas, il peut changer.
Ah, je pensais que vous aviez carrément fait le choix. Vous ne mélangez pas le paquet des dominos. Vous le retournez, vous le mettez comme il était, et comme ça, en fait, vous allez avoir la même.
On aurait pu faire comme ça
pour
aussi.
Pour la pression, c'est comme ça, dire attends, je sais que ça va tourner à gauche là.
Ça aurait pu être chouette. Ce qu'on voulait, c'était introduire, tu vois, une nouvelle forme d'agentivité avec les dominos et avec le fait que tu peux changer un domino et tu vois, réintroduire d'autres choix stratégiques. Par exemple, tu te dis attends,
là, c'est pareil. Si tu sais que
la prochaine
carte.
Notre solution est un peu plus faible que la tienne.
Mais
parce que là, t'as vraiment un truc très intéressant. Et surtout, nous, le problème qu'on avait, c'était de se dire mince, si on perd. Tu vois, on n'a plus les surprises. Donc comment on redonne de l'intérêt? Alors ça, on pourrait imaginer d'avoir un vrai niveau différent, tu vois,
ouais.
qui prendrait en compte l'échec. Ça serait une piste. Mais là, on s'est dit bon, là, on va pas développer des branchements de scénar, mais donc on va plutôt travailler sur. Tu vois.
Nous, on a vu des donjons dans cette partie. C'était incroyable. Ouais. On a vu un donjon surconnecté où ça tournait à gauche, mais ça rejoignait un couloir et machin. Il y avait un donjon où il y avait genre 3 puits dans le donjon. Tu vois, genre, ça faisait... c'était incroyable. On a eu un... Ça, c'est quelque chose... C'est un vrai plaisir de Donjons et Dominos aussi, dont on n'a pas parlé en présentation du jeu, mais que quand on tire des donjons qui sont vraiment originaux en termes de design et de level design, c'est vraiment rigolo. Quand on peut faire tourner le Minotaure en bourrique en le baladant, il y a plein de trucs marrants. Bref. Et donc là, on en a eu des donjons comme ça très intéressants, et notamment le troisième. C'était vraiment bien.
Et donc ça, tu vois, on voulait donc que les gens rejouent le niveau, mais sans qu'ils soient complètement
ouais.
pareils. Et pour ça, donc il y avait rajouter un petit avantage, tu vois, à l'aîné. Quand ils découvrent le carrefour, ils ont d'autres choix possibles. Ils ont notamment des possibilités de soins qu'ils n'avaient pas avant.
Ouais.
Et puis surtout, le fait que le golem, on puisse le vaincre différemment. Et on puisse le vaincre de manière narrative. C'est-à-dire le golem, c'est un sous-boss, en fait, c'est un pré-boss qui doit être vaincu avec... qui peut être blessé que s'il y a deux personnages à son contact. avec cette idée que, bah, en fait, comme c'est une armure, il a une armure assez solide, il faut trouver un peu la faille. Donc, un fait distraction pendant que l'autre va l'affronter. Et dans la deuxième version, on décrit en fait que le golem a des yeux rubis, a deux rubis à la place des yeux. Et il y a des petits indices dans une salle du niveau 3 où on raconte qu'il y a des bijoux en forme de rubis, etc.
Ça, on est passé complètement...
Mais non, mais c'est normal, c'est dans la deuxième version, en fait. C'est si tu refais le 3 bis.
C'est pour recréer un intérêt, en fait.
Et en fait, il est...
On a vu qu'il y avait, il y avait un intérêt aux bijoux. Il y a un moment donné, on a fait gaffe, on s'est dit...
C'est
ça,
et en fait, ça, c'est un indice. Dans le niveau 3, si tu veux rejouer le... Si tu perds, en fait, le niveau 3 et que tu rejoues le 3 bis... Eh ben, tu peux vaincre le golem en fait en lui arrachant les rubis qui sont à la place des yeux.
Et en lui arrachant les bijoux, ça.
ça a l'air bizarre.
Désolé.
Et en fait, si tu fais ça, t'as une victoire narrative et t'as pas à vaincre le boss. Et c'est une autre façon de le jouer. Et notamment, ce qui était un peu rigolo pour ça, c'est que dans la description, on met pas mal de fausses pistes avec une herse, une pique, de l'huile, etc. On fait des propositions. Où on, en tant que joueur, on pourrait un peu se jeter dessus et dire ah ouais, je vais faire ci ou je vais faire ça, mais si on y réfléchit, c'est pas forcément cohérent parce qu'on a quelque chose qui est très costaud, très puissant. Et donc la solution, elle est donnée par des indices du niveau qu'on a joué précédemment. Donc ça, on trouvait ça chouette, tu vois, d'avoir, même si on est en échec, bah, on rejoue pas exactement la même chose.
Ouais, c'est très très malin, ouais.
Et après, les autres trucs qu'on avait voulu faire, bah, c'était au niveau 2 où il y a une modification du terrain avec les trappes.
Ouais.
Avec en fait les cases vierges qui deviennent des trappes, et donc si on c'est un peu des fosses à pieux, tu vois, et si on finit son tour dessus, on prend une blessure.
On a un avertissement avant, ouais. Là-dessus, c'est quoi déjà l'avertissement?
L'avertissement, c'est mieux vaut rester sur ses gardes, sinon vous risquez de tomber de haut. Et l'idée, c'était de faire la blague sur le mot garde, et en fait on reste à l'endroit où il y a des gardes, et les gardes, il y en a que sur les cases où il y a des chiffres, et sinon il y a un risque de tomber, donc c'est l'idée de trappe, tu vois.
D'accord.
Qui est un peu une annonce qui est faite et qui est cohérent avec le fait que ce soit une harpie qui vole. Il y a des plumes aussi, donc on se dit ah, il y a peut-être des choses qui volent, et pourquoi il y aurait quelque chose qui vole à ce moment-là.
C'est vrai qu'on a trouvé des plumes à un moment donné, effectivement. Ouais. Excellent. Bah moi c'est marrant parce que je me souviens que les plumes, ça va activer, je me suis dit attends, c'est quoi, c'est la plume du mat, j'étais en train de chercher dans la mythologie en fait autour des plumes. Je sais pas, mais ouais, j'ai pas du tout pensé qu'il y aurait des créatures qui volent, mais bon.
Et dans cette excellent. Idée, tu vois, de laisser, on voulait aussi avoir un truc où on sème des petits indices. Et tu vois, il y a un indice qui est... Mais en fait, si les gens ne l'ont pas, c'est pas grave, mais ça donne quand même des indications. Il y a l'idée que tous les boss commençaient par la lettre H. T'avais Hydre, Harpie et Ibris.
Ouais.
Et donc, quand tu tombes sur le golem, qui commence pas par la lettre H, tu devrais déduire que c'est pas ton boss de fin, tu vois, et qu'il va y en avoir un deuxième.
Ça, c'est vraiment des petits easter eggs.
Mais tu vois, c'est des petits trucs comme ça, mais moi ça m'amuse en fait.
T'adore
de faire ça.
Truc-là,
parce que les gens trouvent, c'est cool pour eux, tu vois, ils disent ah ouais, ils ont le plaisir de la découverte, mais s'ils trouvent pas, ça les empêche pas du tout de jouer, tu vois.
Ouais,
on veut pas
sûr.
Que ce soit des choses bloquantes.
Ouais, évidemment. C'est vraiment le principe même de easter egg en fait. Enfin, non, parce que l'easter egg, c'est plutôt en référence à des trucs parfois, mais. Oh, si. Ouais, excellent. Je voulais aussi, juste pour finir, t'as encore des éléments à ajouter, Guillaume?
Bon, globalement,
mais
je pense qu'on
très
a,
riche,
fait,
hein.
On a fait un peu le tour, après les gens liront, tu
et
vois.
Et puis voilà, c'est ça, on va peut-être pas spoiler non plus tous les éléments de conception, mais sachez que
aperçu,
tout,
quoi.
Moi ce que je trouve génial, c'est que ça donne un bon aperçu de comment tout dans la campagne que vous avez prévue est adapté en fait au système de donjons et domino, fait pour épouser complètement les contours du jeu et pour
ouais,
en proposer en fait un scénario totalement cohérent, narratif. C'est très étonnant. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est de voir comme avec cette recherche-là en tête, vous tombez finalement... Regardez, le scénario de la campagne principale de Donjons et Domino, il y a quand même la notion de Dédale, il y a les Grecs, puisque l'adversité est une déesse, enfin une sorcière grecque. Enfin, tu vois, il y a tout un truc.
Carrément, nous, on s'inscrit
directement
dans
le lore.
Ouais,
c'est vraiment incroyable. C'est totalement match de ce point de vue-là. Parce que, tu vois, le point de vue de Jérémy, juste pour en finir avec ça, ça a été de prendre justement totalement le contre-pied. C'est-à-dire de dire, ah ouais, ça parle de mythologie et tout, bah moi je vais faire un truc sur les ingénieurs informaticiens et je vais réenchanter le Minotaure en faisant autre chose et je vais réenchanter le donjon en faisant un réseau informatique, tu vois. Il y a une démarche en fait différente dans la démarche
ouais,
de Jérémy avec Croner et Domino.
Quoi.
Voilà, c'est ça.
Mais, hein mais tu vois, moi, ça c'est un peu un vœu, mais je me dis, ce qui serait bien, c'est que quand les gens, alors peut-être moins détaillé, c'est pas grave, mais quand les gens, ils écrivent griffes, tu vois, un scénar de Donjons et Domino, ou d'ailleurs tout type de jeu,
ouais.
Tu vois, qui mettent derrière un peu la note de conception. De conception. Mmh. Même de manière, tu vois, simple et tout, parce qu'en fait, je trouve ça, je trouve ça vachement intéressant de se dire, parce qu'il y a plein de choses que tu rates, en fait, quand tu lis un jeu, et là, de se dire qu'est-ce qu'un auteur a essayé de mettre en place. Après, y réussir, et c'est pas grave, mais au moins, tu vois les intentions, et je trouve que pour réfléchir au game design, c'est ultra important d'avoir quelque part le back-office des auteurs et
la généalogie
idées, et ça c'est vachement intéressant.
Mais oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi, et tu vois, c'est pour ça aussi que je conseille pour cette version là puisqu'on l'a justement, ce back-office, ce backup, ce background, d'avoir un animateur qui va le lire en amont, parce que c'est tellement dommage de l'avoir et de pas en profiter pour améliorer l'expérience du jeu, tu vois. Donc c'est pour ça que moi premier élément. Deuxième élément, pour répondre un petit peu à ta lettre au Père Noël, Thibaut, le problème c'est que la plupart des créateurs de jeux de rôle ils se contentent en fait de prendre des mécaniques qui pour eux ont fonctionné sans réfléchir tellement au sens qu'elles ont en réalité.
Mais là je m'adresse aux auditeurs de la cellule.
D'accord.
Donc voilà.
Merci. Merci de ne pas les prendre, mes auditeurs et auditrices, pour des imbéciles, ça me fait très plaisir. Et effectivement,
on va pas s'insulter nous-mêmes quand même.
Mais en tout cas, voilà, je suis assez d'accord avec vous deux pour dire que avoir accès à ces notes de conception, qui ne sont pas des notes d'intention, qui sont vraiment des notes de conception, c'est-à-dire pourquoi j'ai choisi de faire ça. C'est pas attention à ceci, enfin, tu vois, je sais pas comment dire.
Il y a
quelque chose de différent, je trouve. Et ben, ça oriente vraiment, et ça, en donnant en fait les clés de compréhension, ça supprime en fait les incompréhensions qui pourraient subsister, ou les contresens que l'on pourrait faire, tu vois, etc., etc. Et nous, on en a fait des contresens, tu vois, en n'ayant pas accès à ça. Par exemple, le coup des auras, où on va chercher dans la base et où ça nous crée autre chose que ce qui est attendu. Le golem, je suis pas sûr qu'on l'ait bien joué. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme potentiel contresens Non, je crois que c'est tout, sinon on a à peu près... Mais on est passé à côté de certains trucs qu'un maître de jeu ou un animateur aurait pu peut-être nous... Voilà. Je voulais quand même finir sur le perso, puisqu'on en a parlé lors d'un podcast précédent. Il y a un moment donné, donc dans la conception de jeu, où tu parles justement...
Des opérateurs,
voilà,
c'est
ça. Le
cheval de bataille.
Voilà. Donc là, je renvoie sans doute au podcast qu'on a enregistré sur le perso. Mais ce qui est rigolo, c'est que pour les gens qui auraient, et les auditeurs auditrices qui auraient bien aimé l'idée d'opérateur et les discussions autour du perso, sachez que dans Donjons et Domino, la version donc de Thibaut et de Guillaume Rioux, il y a un moment donné, dans l'explication du game design du jeu, il y a les opérateurs sur lesquels vous avez agi pour faire des choix de game design.
Ouais, parce qu'on a vraiment, comme je te disais, en fait, on a dégagé des paramètres, en gros les paramètres qui étaient présents dans ton jeu, et savoir sur quoi on pouvait agir.
Voilà.
Et après, la notion de comment les transformer, comment faire des outils pour agir dessus, on les a vraiment générés grâce aux opérateurs, voilà. En passant du quantitatif au qualitatif, en passant de la synergie, en passant avec des systèmes de dépendance,
synergie, etc. Catalyse, temporaire / permanent, donc varié sur cet élément, sur cet opérateur là, la conversion, le choix, je les cite rapidement, l'ajout et la soustraction dont vous avez parlé dont vous aviez également parlé dans le podcast sur le perso.
Peut-être juste une petite précision qui est quand même pas de confusion entre les deux podcasts, c'est que là on n'est pas dans une structure de JDR. Donc en fait, tout ce qu'on a exposé avec la méthode perso, c'est-à-dire les systèmes, tu vois, la proposition, tout ça, là on est quand même pas sur la même structure de base. Donc c'est pas une transposition stricte, mais là l'idée c'est plutôt sur une base de jeu de société, même s'il y a toute une dimension roleplay, mais disons que c'est quand même plus une base comment appliquer ça. Donc
ça montre que c'est transposable, voilà, aussi, en fait, c'est pas cantonné au JDR, mais
l'opératothèque,
mais c'est
elle est utilisable en jeu de société. Là après faudrait vraiment rediscuter dans le détail, des fois on a peut-être été un peu rapide sur certains points, mais parce qu'on a moins cette structure de modélisation comme on l'a proposé pour le JDR, mais donc voilà, mais là l'idée c'était de se dire on peut l'appliquer en jeu de société, c'est une première approche qui mériterait d'être raffiné, mais au moins ça montre que, cher ami concepteur de jeu, vous pouvez avoir ce mode de réflexion. C'est vraiment un outillage qu'on propose.
Tu vois, justement, voilà. Moi, la grande différence que je fais entre jeux de société et jeux de rôle par rapport à ça, pour moi, les propositions sont dans les deux cas. Choisir d'avancer un pion ou de le reculer, choisir de dépenser une ressource ou de ne pas la dépenser, c'est une proposition. C'est juste que le contenu fictionnel est organisable, il n'est pas malléable, comme dans un jeu vidéo aussi. C'est-à-dire que les choix, c'est un QCM, si j'ose dire.
Ouais, ils sont plus restreints, ouais.
C'est comment on pourrait dire ça, une proposition à choix multiples, un PCM. Je t'entends pas.
Et puis il n'y a pas de débat sur l'intégration des propositions. C'est-à-dire, si tu décides de déplacer ton personnage se déplace. Enfin, alors, modulo le fait que tu ne respectes les règles quand même.
Oui, et puis modulo le fait que tu es là, ici, dans Donjons & Dominos, dans un jeu coop.
Ah oui, oui.
Dans
oui.
lequel, potentiellement, une opération. Enfin, pardon, n'importe quoi. Une action peut être questionnée. C'est-à-dire que tu vois le guerrier qui s'avance d'une case et tout le monde fait oh là là, t'avances pas, t'as oublié de lui donner la potion. Et là, du coup, il revient en arrière, il donne la potion à celui qui était tombé par terre. Ouais. Et voilà. Parce que attention, il y a ça aussi.
Oui,
on se met quand même, surtout dans un jeu comme ça, un jeu où il y a le problème de l'effet leader,
ouais.
Notamment parce que c'était un jeu qui a été pensé pour les enfants à la base, on a aussi de discussion autour des propositions possibles. Allez, c'est très bien. Je pense qu'on a bien fait le tour que je retrouve plus le nom du scénario.
L'exil
des héritiers. Scénario pour Donjons et Dominos que vous pouvez trouver sur le site Donjons et Dominos. Vous allez, vous faites romaricbrillant.fr, vous allez sur Donjons et Dominos, c'est romaricbrillant.fr/Donjons et Dominos. Sur le côté droit du site, vous avez en fait un endroit où vous pouvez dérouler. Si vous faites bouger la molette, vous verrez, ça se déroule. Et là, tout en bas, vous avez un petit encadré avec écrit scénario additionnel. Vous cliquez là et vous trouverez Cthulhu Donjon et Domino, vous trouverez Runner et Domino et enfin l'exil des héritiers à ne pas rater. Merci beaucoup à vous deux pour cette création qui est vraiment superbe. Merci d'avoir ajouté ce scénario à Donjon et Domino et de participer ainsi à la création du jeu. Ça me fait très très plaisir avec toute votre intelligence et cet amour de travail bien fait, d'épouser vraiment l'esprit du jeu. Ça me fait très très plaisir. Merci beaucoup à vous deux.
Je
ne vous remercierai
toi,
jamais assez, que ce soit pour vos apports théoriques au jeu de rôle, aux superbes émissions à la cellule, au village aussi que vous avez contribué à analyser. Et là, Donjons et Dominos, merci. Vous êtes des amours tous les deux. Allez, à très bientôt tout le monde.
Ciao, jouez
portez-vous bien.
Bien
et surtout jouez bien. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.